bienvenue à la cinquième conférence du groupe de recherche théorique, qui est une initiative prise en commun par l'école doctorale 3 de Paris 4, l'école doctorale littéraire, littérature française et comparée, par l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou et activement soutenu par le groupe Fabula. Accueillir ici ce soir Thomas Domange, c'est suivre un certain chemin que nous avons commencé au début de cette année, ce que nous allons continuer de parcourir ce soir. Et puis c'est aussi, il faut le dire très franchement, ça ne peut pas être ignoré, en tout cas pas par moi, au moment où je le présente, un jalon de plus sur une relation de travail extrêmement intense, commencée il y a 15 ans, à Strasbourg, au moment où Thomas finissait ses études, et où je reprenais les miennes, c'est-à-dire, de façon de dire qu'il était mon ancien, dans cette succession. Et depuis ces 15 années, de façon absolument ininterrompue, nous avons poursuivi, mené ensemble un dialogue de réflexion et aussi d'amitié dont je ne vous signalerai pas les étapes, ce serait long et déplacé ici, mais il y a eu par exemple comme un de ces moments marquants la soutenance de la thèse que Thomas avait préparée sous la direction d'Étienne Balibar à Paris 10, Nanterre, et qui a été soutenue dans cette université, séance tout à fait mémorable, dans un jury présidé par Philippe Lapoulabart, qui je veux adresser ici et ce soir un témoignage d'affection infinie. Voilà, donc c'était le cas avant, ça s'est continué après. La thèse de Thomas s'appelait « Les paradoxes métaphysiques de la passion selon Saint Matthieu » de Jean-Sébastien Bach, une thèse de philosophie sur Bach et la passion selon Saint Matthieu. Et dans cette thèse, entre autres questions, il y avait un dialogue entre érudition, théologie et architecture sur un certain point précis concernant la disposition de l'espace dans la partition elle-même, mais aussi dans l'église où cette passion avait été représentée. Donc, en suivant ce fil parmi d'autres, dans un exposé dont j'ignore tout, une communication dont j'ignore tout, que je vais en découvrir avec vous, Thomas a choisi de proposer, avec une certaine loyauté par rapport à la question que nous posions, de proposer de relever l'interrogation en intitulant son exposé de ce soir « Pourquoi une théorie de l'espace musical ?» Je tiens à dire que c'était vraiment prendre au mot ce qui était la question qui avait été soumise aux différents participants à ce cycle, puisqu'au fond, c'est un peu ce qu'on leur demandait, et ce pourquoi les uns et les autres se sont tous se pliés avec une extrême grâce, c'est-à-dire à la fois, je rappelle, c'est une double convention en quelque sorte passée avec eux, à la fois entrer dans le cœur de leur recherche, essayer de nous introduire au point le plus incertain par définition, puisque le cœur de la recherche se trouve être nécessairement le point d'indécision le plus marqué. Point le plus incertain donc de leur chemin de pensée présent, chemin de pensée du moment, aujourd'hui, et d'autre part, éventuellement, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, réfléchir en cette occasion, se poser la question de qu'avons-nous à faire du théorique comme tel. Voilà, et donc Thomas, avec la loyauté qu'on lui connaît, a accepté de relever ce double défi. Salut, je lui remercie d'être là, parce qu'il arrive de Montréal, il est venu pour ça, de Montréal. Et donc, il travaille en ce moment, enfin, je ne vais pas le contredire, la plupart d'entre vous le savent. et où l'on lut. Et donc, je remercie d'être venu dans cette circonstance. Et je lui dis, Thomas, on t'écoute.
Super. Si je parle trop fort, j'enlève le micro. J'ai essayé de parler le moins fort possible. Pour essayer de ne pas être trop long, j'ai plutôt rédigé. Ça m'évitera de rester là jusqu'à 3 heures du matin. Et j'avais essayé de vous présenter ce sur quoi je travaille, mes petites hypothèses. Alors voilà. Je voudrais savoir pourquoi père et mère, bien avant la naissance d'un enfant, lui chantent de petites mélodies. Et pourquoi ils continuent encore longtemps après à le bercer d'innocentes comptines. Je voudrais savoir pourquoi on a introduit de la musicothérapie aux soins palliatifs du Royal Victoria Hospital de Montréal ou dans certains programmes d'aide aux autistes. Pourquoi on a introduit la musique dans les salles d'opération comme complément aux anesthésies. Pourquoi on écoute de la musique pour se réveiller le dimanche matin. Et pourquoi encore il y a de la musique dans les salles d'attente, dans les rayons des grands magasins, à la télé pour accompagner une publicité pour un jambon, ou dans les bars, sur les répondeurs téléphoniques, dans les films, à la radio, voir pourquoi on utilise la musique pour augmenter la production laitière des vaches ou pour favoriser la croissance des plantes, même si, et je m'en excuse auprès de ceux que la question passionne, je compte parler assez peu de vaches et de plantes durant mon exposé. On l'aura deviné, la question qui est à l'origine des réflexions qui m'occupent en ce moment et dont je voudrais vous faire part est la suivante. Pourquoi la musique est-elle omniprésente dans notre vie? Pourquoi, pour reprendre le terme de Philippe Lacoulabarthe, à la fin de Musica Ficta, une telle musicolatrie? La réponse à cette question est connue. Connue depuis toujours, aurais-je dit, si ça ne faisait pas un peu mauvais début de dissertation. On a sans arrêt recours à la musique à cause de sa capacité à émouvoir. Tel est le chant des sirènes dans l'Odyssée qui provoque chez Ulysse un plaisir si intense qu'il se serait perdu s'il n'avait pas été attaché au mât de son navire. Tel est encore le chant ou la plainte d'Orphée qui émeut les divinités infernales au point qu'elles décident de lui rendre Eurydice. Tels sont enfin les sons qui s'échappent de la lyre du roi David et qui viennent apaiser la mélancolie de Saül, abandonné par Dieu. La musique donc appelle, comme le marteau le fer sur lequel il va s'abattre, une âme à émouvoir. Je dis l'âme parce que l'âme me semble être la première interlocutrice de la musique. Quand bien même cette dernière s'adresse au corps, sa puissance ne se reconnaît pas dans sa capacité à mouvoir des nerfs ou des jambes, ce que le bruit d'une porte qui claque parvient à réaliser tout aussi bien, mais à travers eux, ou en même temps qu'eux, à faire se mouvoir une âme. Terme que je choisis également parce qu'il est employé aussi bien par Pythagore que par Hegel ou Jankélévitch quand il parle de musique. La reconnaissance d'une intimité particulière entre l'âme et la musique est en effet constante en philosophie. Parmi la cohorte des philosophes chez qui on trouverait un tel couple, Platon, Augustin, Rousseau, Hegel, Nietzsche, Jankélévitch pour ne citer qu'eux, je retiens à un bout de la chaîne, à titre symbolique, cette phrase de Macrobe qui dit que, je le cite, Pythagore et Philolaos ont dit que l'âme était une harmonie musicale. Et à l'autre bout de la chaîne, pas tout à fait à l'autre bout, mais tout de même à une autre extrémité de la chaîne, cette affirmation de Hegel au début du chapitre de l'esthétique qu'il consacre à la musique, je le cite, « La musique est l'art dont l'âme se sert pour agir sur les âmes. » Mais, la plupart du temps, la reconnaissance d'un pouvoir de la musique sur l'âme, en même temps qu'il est proclamé avec force, demeure inexplicable. La musique nous emporte, n'a pas son pareil pour agir sur notre âme, mais sans qu'on soit capable de dire pourquoi, sans qu'il soit possible d'établir entre l'ordre des sons et l'ordre des affects une connexion nécessaire ou causale. Si la conception antique de l'âme et de la musique, en fondant la structure de l'une et de l'autre sur des rapports mathématiques, pouvait encore rendre compte métaphysiquement de leur affinité, depuis que la musique s'explique par une théorie physique, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle, et depuis que l'âme, de l'autre côté, a perdu toute matérialité, il semble impossible de savoir à quoi exactement attribuer le pouvoir de la première sur la seconde, puisque ce pouvoir doit désormais s'établir par-delà une différence ontologique entre la matérialité des sons et l'immatérialité de l'âme. Si l'action de la musique sur l'âme nous oblige à un grand écart métaphysique, c'est qu'aucune conception mécaniste de l'action musicale n'a pu être vérifiée. Une musique écrite en ré majeur, je prends un exemple, tonalité des trompettes à la fin du XVIIe siècle, associée traditionnellement au triomphe ou à l'éclat, et qui devrait provoquer un sentiment du même genre à leur écoute, peut provoquer en moi un état d'âme qui n'a rien à voir avec ce que cette tonalité est censée évoquer. De même, je peux écouter un morceau en do mineur, souvent associé à la mélancolie dans les œuvres du XVIIe siècle en Angleterre, ou dans les œuvres vocales de Bach, sans être triste. Ou encore, je peux être ému à l'écoute d'une musique atonale censée ne rien exprimer du tout. Ainsi, entre la cohorte des sons et mes états d'âme, il n'y a aucun lien causal ou mécanique. Et la musique n'agit pas sur mon âme comme une boule de billard venant frapper une autre pour lui transmettre force et direction. C'est parce que la musique agit sur notre âme, non pas causalement, mais à distance, mystérieusement, je pourrais dire, par envoûtement, que je parlais en commençant non pas des effets de la musique sur notre âme, mais de son pouvoir, au sens où on parle d'un pouvoir magique. Cette idée d'ailleurs d'un pouvoir magique propre à la musique, d'une capacité à rejoindre les esprits et les âmes en franchissant la distance qui sépare la matière de l'esprit, nous la trouvons dans de nombreuses sociétés, notamment quand la musique est associée à des rituels, je ne vous détaillerai pas les rituels, comme dans le nord du Vietnam, chez les Pygmées ou dans le bouddhisme tibétain. À l'issue de ces premières remarques préliminaires, il me semble que je peux alors transformer ma question initiale, pourquoi écoutons-nous autant de musique, et lui donner une formulation plus précise, à savoir, comment concevoir la musique de telle sorte qu'elle soit capable d'agir à distance ou magiquement sur notre âme. À cette question, qui va occuper la totalité en gros de ce que je vais raconter, j'en ajouterai en guise de conclusion et pour ouvrir la discussion une deuxième, dont la formulation appartient à Denis Guénoun. Il y a de cela 15 ans, après m'avoir laissé achever une divagation théorique du genre de celle que je vais vous proposer, il m'avait regardé, et après ces pauses dramatiques dont il a le secret, m'avait demandé « Et alors ?» Ce qui, je crois, voulait dire à peu de choses près, tout ça c'est bien joli, mais à quoi ça sert ? Je conclurai donc mon propos en essayant de dire comment je me débrouille avec cette question, et je demanderai, mais ça me prendra très peu de temps parce que je suis à peu près incapable de répondre, une théorie de l'espace musical, et alors ? D'abord, j'essaie de vous présenter une théorie, c'est un grand mot, disons une ébauche. J'essaie de vous présenter mon ébauche. L'ensemble de ce que je veux dire sur la musique et sur son rapport à l'âme, sur les raisons qui nous poussent à en écouter sans arrêt, repose sur l'idée que la musique n'est ni un objet, ni principalement, je ne vais pas rentrer dans cette argumentation, n'est ni principalement un objet, ni un discours, mais un espace. Ou plus précisément, un milieu, comme on va le voir. Que la musique puisse être rapportée à l'espace, personne ne le conteste. La polychoralité, par exemple, pratiquée à Venise, notamment dans la seconde moitié du XVIe siècle, n'est pas sans rapport avec l'architecture de l'église San Marco. Dans un tout autre registre, on sait que les musiciens du Bologna en Côte d'Ivoire jouent en tournant en rond. La musique a des lieux de naissance et d'éclosion, elle possède des espaces de prédilection pour son exécution, comme l'indique le nom même de musique de chambre, comme le confirme Wagner, qui réclame expressément la construction d'un théâtre pour l'exécution de ses drames, ou encore Xenakis, qui dans son projet pour la Cité de la Musique à Paris en 1984, réfléchit à la construction d'une salle de concert capable, je le cite, d'annuler les zones de concentration ou d'ombre des sons. La musique, on le sait, peut renvoyer à des territoires ou décrire un paysage. Une flûte de Pan peut m'évoquer le Pérou, certaines façons de moduler les sons transportés en Inde. Le poème symphonique de Smetana, la Moldave, décrit le cours du fleuve depuis sa naissance jusqu'au moment où il se jette dans l'Elbe. Enfin, pour ne pas faire trop long, la danse, que ce soit dans les fêtes de la Renaissance ou dans les rites initiatiques des cénophous de Côte d'Ivoire, ou encore dans les discothèques, spatialise la musique par les déplacements et les mouvements du corps. Mais mon hypothèse ne consiste pas à dire qu'il est toujours possible, voire parfois utile ou nécessaire, d'inscrire la musique dans des lieux ou de la rapporter à des territoires. Mon hypothèse consiste à dire que faire de la musique, c'est construire un espace. Je propose de dire non pas que la musique doit être pensée depuis son inscription géographique ou culturelle, mais que, comprise comme agencement des sons, elle est ou configure un espace au sein duquel notre corps se meut, comme le poisson dans l'eau de la rivière, et avec un égal bonheur, j'espère. Cette idée que la musique est un espace, c'est-à-dire qu'elle déploie véritablement autour de nous, de notre corps, un lieu que ce corps peut parcourir, dans lequel il peut séjourner, je voudrais l'éclairer avec quelques remarques très générales sur la naissance du blues. Comme on le sait, il est convenu de voir dans le blues une invention singulière du noir américain. Ce qui veut dire non seulement que cette pratique musicale a surgi des conditions d'existence particulières des esclaves noirs, mais encore qu'elle demeure inséparable de l'identité afro-américaine. Je vous renvoie pour l'étayage de cette proposition très générale que je n'argumente pas, par exemple aux ouvrages de Webb Dubois, de Leroy Jones ou encore de Gilroy, qui traitent explicitement des rapports complexes entre identité noire et musique. L'histoire du noir américain et du blues sont en général si inséparables que Leroy Jones écrit dans Le peuple du blues, je le cite, « Je considère le début du blues comme un des débuts du noir américain ». De la situation de ces premières générations d'Africains de l'Ouest qui arrivent dans le sud de l'Amérique pour ne plus en partir et qui vont peu à peu, lentement, inventer le blues, je ne retiens qu'un seul élément qui m'intéresse. Il n'y a pas qu'un seul élément qui m'intéresse, mais je retiens qu'un. Celui d'une impossible territorialisation géographique. D'un côté, en effet, l'esclave est contraint de renoncer à une terre qu'il sait ne jamais devoir revoir et aux pratiques qui pouvait la lui garder présente. Il est de plus soumis à une acculturation telle que Leroy Jones peut écrire que très rapidement, je le cite, « l'Afrique lui est devenue une terre étrangère ». D'un autre côté, enfermé dans sa situation d'homme noir, privé de toute reconnaissance, il ne peut faire de l'Amérique sa terre. Ainsi, placé à mi-chemin entre l'Afrique et l'Amérique, la situation de l'esclave peut se définir spatialement par un entre-deux. Webb Dubois, dès les premières pages de son célèbre ouvrage « The Sounds of Black Folk », publié en 1903, définit le noir américain ainsi. « Chaque noir sent constamment sa double nature. Un américain, un noir. Deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables, deux idéaux en guerre dans un seul corps noir que sa seule force inébranlable prévient de la déchirure. » Fin de citation. C'est aussi sans doute pour signifier cette absence de terre que Gilroy propose, je le cite, de considérer l'Atlantique comme une unité d'analyse unique et complexe de la culture afro-américaine. Et qu'il prend comme point de départ de ses analyses, justement, je le cite encore, l'image des navires en mouvement au travers des espaces séparant l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et les Caraïbes. La terre des premières générations d'esclaves, ce ne serait donc ni l'Afrique ni l'Amérique, mais symboliquement l'Atlantique. Or, l'Atlantique incarne précisément un lieu qu'on n'habite pas. C'est un espace dédié à la traversée, composé non pas de lieux mais de trajets, un espace sans repère et sans halte possible. Parler, comme le fait Gilroy, de l'Atlantique noir, c'est donc peut-être dire que la terre du noir américain n'est pas une terre, mais un espace fait uniquement de trajets et dont l'océan liquide manifeste l'impossible saisie. Je voudrais, à partir de là, faire l'hypothèse que le blues peut être appréhendé comme la construction réelle de cette terre manquante, ou plus exactement, comme la métamorphose de l'Atlantique noir en un espace habitable. Le blues, ce serait l'Atlantique devenu aussi solide et habitable qu'une terre. Évidemment, je mets le mot « terre » entre guillemets, là. Je vais vous expliquer pourquoi, enfin, c'est évident que ce n'est pas une terre, mais pourquoi j'emploie quand même ce terme. Cette proposition repose d'abord sur le fait que les blues apparaissent historiquement comme une réponse des Noirs à leur déterritorialisation. Comme le rappelle Leroy Jones, je le cite, « Les Africains de l'Ouest ne chantaient pas le blues en descendant des bateaux. » Et cela parce que cette musique sert avant tout à exprimer la douleur d'une vie passée dans la servitude et à relater les conditions d'existence réelles des esclaves. Cette réponse musicale est si consubstantielle à la situation des Noirs d'Amérique que Webb Dubois fait précéder la plupart des chapitres de son livre d'un chant de blues. 10 chants qui, dit-il, je le cite, « mettent en mots et en musique le malheur de l'exil ». Fin de citation. Le blues est donc une réponse à l'exil. Ce lieu, le blues, serait ce lieu privilégié pour exprimer le désir et l'attente d'une terre où l'esclave pourra réconcilier sa double nature d'Américain et de Noir. Cette terre, toujours entre guillemets, est omniprésente dans les chants et dans les Negro Spirituals. Elle apparaît sous les traits de Sion ou de Jérusalem, comme dans « I'm marching to Sion » ou « Walk into Jerusalem, just like John ». Elle peut être désignée comme un chez-soi indéterminé que l'esclave va atteindre une fois libéré par la mort. Ou encore, cette terre peut être désignée comme c'est le cas dans le jeu, je ne l'ai pas précisé, comme c'est le cas de... du blues, du chant que Dubois met en exergue de son dernier chapitre. Elle peut aussi être désignée comme le tombeau lui-même où l'esclave ira déposer son corps. Cette terre, ce peut être encore la Géorgie, comme dans le blues « Oh, my master told me there is no grass in Georgia », qui exprime la lamentation d'un esclave contraint de sarcler les mauvaises herbes en Virginie ou en Caroline et qui imagine une terre plus douce en Géorgie. Ou elle peut avoir pour nom le Canada, à propos duquel Martin Luther King rappelle, je le cite, « Nous chantions le ciel qui nous attendait et les maîtres des esclaves écoutaient en toute innocence, sans se douter que nous ne parlions pas de l'au-delà. Le mot « ciel » désignait le Canada et le noir chantait l'espoir qu'en s'enfuyant, il y parviendrait un jour. » Fin de citation. Mais outre ces références, ce qui, je crois, montre la présence, voire l'obsession dans les blues de la recherche d'une terre, dans les Negro Spirituals encore plus, c'est l'identification constante qui est faite entre la situation des Noirs en Amérique et celle du peuple juif. Reprenant la situation des Juifs sortant d'Égypte, les Noirs chantent la sortie hors de l'esclavage, la quête d'une terre promise et la traversée du Jourdain, à propos de laquelle le roi Jones écrit « Traverser le Jourdain ne signifie pas seulement mourir, mais aussi entrer dans un paradis très réel. » Tel est le chant « Mary, don't you weep » qui demande à Marie de ne pas pleurer puisque l'armée du Pharaon a été noyée, ou encore « Go down, Moses ». Mais de tels chants ne font pas qu'exprimer le désir d'une terre promise. Dans la mesure où ils réconfortent et consolent, dans la mesure où ils offrent d'ores et déjà cette paix et cette joie qui sera celle de l'esclave quand il atteindra sa terre, on peut dire qu'ils concrétisent cet espace. Parce que, comme l'écrit Gilroy, cette culture musicale produit une bonne dose du courage nécessaire pour continuer à vivre dans le présent. Fin de citation. Elle construit, cette musique, un lieu refuge où l'esclave vient puiser quelques forces. Dans le blues, dans les Negro Spirituals et dans les Fields Hollers qui leur donneront en partie naissance, le noir d'Amérique trouve un espace propre, connu de lui seul, une terre invisible que l'homme blanc, parce qu'il ne connaît pas l'asservissement ni le blues, ne peut s'approprier. Constitué au croisement de la musique européenne et de la musique africaine, je ne détaille pas ce point, on pourra en discuter si vous voulez quelques confirmations, cette musique occuperait dans la vie des esclaves une fonction géographique en donnant une terre qui symboliserait l'Atlantique noir. Le blues, loin d'indiquer le fantasme d'une terre originaire ou la nostalgie de l'Afrique, loin de se substituer à un espace géographique perdu, marquerait la volonté de produire un espace nouveau, réellement habitable, pour un peuple ne possédant jusque-là pour seul espace que l'immense océan. Mais, et j'imagine que vous m'avez précédé, l'idée proposée ici selon laquelle le blues actualise, c'est-à-dire rend effectif et concret la terre manquante du noir américain, et que la musique, généralement, peut ainsi se substituer à un lieu géographique, reste évidemment métaphorique ou poétique, tant qu'on n'a pas montré comment il est possible de concevoir des espaces sans terre. Or, faire cela, c'est soustraire la notion d'espace à un concept auquel elle est habituellement jointe, qui est celui d'étendue. Concevoir un espace qui n'a à proprement parler pas d'étendue, qui n'a ni largeur, ni longueur, et qui échappe à toute mesure géographique, géométrique, les deux, un espace réel dépourvu de toute extension, constitue l'étape que j'aimerais essayer de franchir avec vous maintenant. Imaginons que j'ai peur en avion et que pour cette raison, je décide de traverser l'Atlantique en bateau. Devant moi, avant notre départ, le capitaine déploie une carte de géographie et me montre la route que nous allons suivre. Il trace une ligne pour relier deux points, mettons Montréal et Brest. Une histoire des cartes de géographie nous montrerait que configurer un espace réel, il en va tout autrement pour représenter des espaces mythologiques, par exemple, mais je ne m'arrête pas là-dessus, c'est essentiellement tracer des lignes. Aux origines, je cite Jacob, « Aux origines de la cartographie grecque, écrit Jacob, on suppose ainsi des cartes nautiques, des itinéraires terrestres qui ne sont que lignes sans contour. » Fin de citation. Paul Zumthor, dans son livre « La mesure du monde », rapporte qu'établir une carte dans la tradition romaine consiste à tracer un réseau de lignes. Ainsi, Castorius, au IVe siècle, dessine une carte sur un rouleau de 34 cm de haut sur 7 mètres de long. La ligne signifie et matérialise d'abord la reconnaissance d'une distance réelle. Elle indique au minimum qu'il y a bien, entre ici et là-bas, une distance à franchir. Le portulan, considéré comme une des premières cartes à visée pratique, est destiné aux marins qui longent les côtes de la Méditerranée, se caractérise toujours selon Paul Zumthor par le fait qu'il, je cite, n'est plus seulement un registre de lieux, mais perçoit et représente des intervalles, des distances. Fin de citation. Newton, dans sa physique, et notamment dans le calcul de la force gravitationnelle, ne fait pas intervenir l'espace autrement que comme la distance qui sépare les points A et B où sont situés les corps. Descartes, quand il définit les corps comme ceux qui possèdent longueur, largeur et profondeur, fait de l'étendue la propriété essentielle de la matière. Ainsi, on peut définir au minimum l'espace comme un réseau de distances. Empiler ou concentrer en un seul point géométrique tous les corps du monde, effacer les lignes, vous aurez supprimé les écarts et vous aurez fait disparaître l'espace. Mais la ligne, quand elle n'est pas une droite tracée entre deux points d'un espace purement géométrique, quand elle est faite par un capitaine de bateau, par exemple, ou par des cartographes, n'indique pas seulement l'existence de distances nécessaires à la définition d'un espace. Elle indique que ces distances sont ou ont été traversées. Pour établir des cartes de géographie utilisables, c'est-à-dire qu'il ne soit pas que la traduction de notre conception métaphysique du monde, il a fallu au préalable le parcourir. L'océan, tant qu'il n'est pas traversé, est un bord du monde dans lequel toutes les distances se diluent. Une bande s'enroulant autour de l'œcumène qui ne possède aucune dimension réelle ou définie. Les océans n'acquièrent une dimension et ainsi ne se spatialisent qu'avec la découverte du calcul de la longitude au XVIIe siècle. Si la notion d'espace appelle celle de distance, la distance à son tour ne se conçoit, je crois, que par et dans un parcours. Ce sont les traversées, les voyages, les pèlerinages, les conquêtes militaires qui établissent les distances et permettent les cartes qui plus tard mesureront l'espace. Il n'y a pas d'abord des espaces, des cartes de géographie, puis des distances absolues mesurées par des lignes droites, et enfin des parcours réels qui serpentent autour de ces trajectoires idéales. Il y a d'abord les empreintes de pas dans la neige, les sillons d'un bateau, les hautes herbes pliées sous le poids d'un corps. Je voudrais proposer l'idée que l'espace, en son essence, si je peux dire, est d'abord affaire de parcours, et que ce sont de ces parcours ultimement qu'il tire ses dimensions et son existence. C'est cette définition de l'espace comme, mettons, ensemble de parcours, qui va servir, je crois, de socle à la possibilité de concevoir un espace sans étendue, et qui légitime, à mon avis, la possibilité ultérieure, c'est-à-dire dans quelques minutes, de parler d'espace musical. Seulement, j'ajoute encore un dernier point, ce parcours, il faut encore lui-même le soustraire à l'empire de l'extension. Car, de même que nous nous représentons spontanément le mouvement comme un déplacement sur une surface, nous nous représentons spontanément l'acte de parcourir comme un changement de lieu géographique. Quand donc y a-t-il parcours ? À quel signe pouvons-nous reconnaître qu'un parcours a eu lieu, et je fais le mouvement sans inverse, et que par là même, les écarts et les distances dont l'espace tire son existence sont nés ? Posons la question à l'océan. Qu'est-ce qui témoigne de la constitution de l'océan Atlantique en espace ? Du fait qu'il a cessé d'être un lieu mythique pour se remplir de trajets ? On répondra, ultimement, des mesures et l'établissement de plus en plus précis de cartes de géographie. Mais on oubliera alors qu'avant cela, avant les cartes, il y eut autre chose qui sont des récits. L'océan est devenu un lieu de parcours à mesure que s'écrivaient les récits de traversée des explorateurs. Dans son livre « Le monde mesuré » sur les dispositifs de l'exploration à l'âge des Lumières, Philippe Despois montre que la mesure du monde, sa cartographie même, passe en premier lieu par des récits d'exploration. Dès 1666 en Angleterre, la Royal Society impose aux capitaines d'expédition la tenue d'un journal quotidien en vue, je cite, « d'améliorer la fiabilité des parcours et des observations ». Je cite toujours, en France, continue Despois, la tenue et la remise des journaux marins est également devenue une obligation administrative dans les années 1680. Fin de citation. La production d'un récit, au croisement de l'enquête scientifique et du témoignage biographique, est, me semble-t-il, la marque du parcours. L'océan Atlantique devient un espace quand il est parcouru, et il est parcouru quand des récits viennent décrire ses courants, ses dangers, les errances des marins, les possibles mutineries. Je ne peux m'étendre ici sur la facture réelle ou sur la facture de tels récits, sur l'ambiguïté aussi de leur statut. Je retiens seulement que s'y mêle à la fois un désir d'objectivité et une part irréductible ou incompressible de subjectivité et d'émotion. C'est que le parcours, la traversée, ne va pas sans l'émotion. Pas de tempête qui ne draine la crainte de chavirer dans son sillage ou d'errance qui ne fasse fi de la peur de la faim. Qu'un récit, donc, apparaisse au confluent de la description d'éléments objectifs et de l'émotion que leur rencontre a fait naître. Et nous saurons qu'un parcours a eu lieu. Arracher la notion d'espace au règne de l'étendue, c'est alors, selon moi, passer d'une définition de l'espace compris comme surface contemplée, dépliée imaginairement devant soi, et dont les distances sont concrétisées par des lignes et des mesures, à un espace compris comme ensemble de parcours, et dont la réalité se traduit par des récits singuliers. Or, ces trois éléments par lesquels j'ai essayé rapidement de redéfinir l'espace, à savoir des distances, des parcours, des récits, nous les retrouvons, je crois, dans notre expérience du fait musical. Je m'assèche. Que la musique puisse exclusivement être expérimentée par ou comme parcours, cela tient d'abord à son caractère temporel, à l'inéluctable mobilité du temps. Le flux musical, la coulée des sons, leur succession ininterrompue dans le temps, interdisent en effet toute possibilité de poser devant soi l'exécution musicale pour en faire un objet de contemplation. Sans doute je peux contempler la partition, ou tenter de ressaisir l'œuvre musicale dans une architecture tonale, en constatant par exemple que le premier prélude du clavier bien tempéré est en do majeur, le second en do mineur, le troisième en ré majeur, et ainsi de suite. Mais évidemment, il manquera toujours ce qui fait la matérialité du son, je veux dire l'attaque de l'instrument, son timbre, un rythme. Écouter un morceau, c'est nécessairement s'embarquer, c'est-à-dire suivre ou pas des trajectoires sonores, suivre la pente d'une mélodie ou pas, ou reculer devant un accord de seconde, sans savoir que c'est un accord de seconde d'ailleurs. C'est consentir ou pas au tempo d'une improvisation, au grain d'une voix. La musique se présente donc à nous, je dirais un peu comme une rivière sortant de son lit pour se répandre en d'innombrables sillons avançant peu à peu sur la terre. Elle déploie un réseau mouvant de routes sonores, terme que j'emprunte à Varèse et qui constitue le titre d'un morceau qu'il compose pour accompagner le spectacle électronique de Le Corbusier, enfin que Le Corbusier a présenté au pavillon Philips de l'exposition universelle de 1958. De ces parcours sonores, il restera bien, comme dans le cas des navigateurs, non des cartes, mais des récits tissés au croisement de données musicales, objectives et d'émotions subjectives. Saint-Augustin, Rousseau, Nietzsche, Proust ramènent de leurs parcours musicaux des récits qui ne sont ni jamais seulement des impressions, ni uniquement des descriptions objectives des règles qui, selon eux, régissent la musique. Que ces récits demeurent, aux yeux de certains musicologues, impropres à saisir la musique en soi ou les lois physiques qui ordonnent les sons, n'invalident en rien l'existence même du parcours musical de l'auditeur. Pas plus que l'incapacité du navigateur qui croise au large du Japon à rendre compte de l'essence de la culture japonaise n'invalide le fait qu'il a effectivement croisé au large de ses côtes. Finalement, la compréhension de la musique comme un espace de pur parcours est légitimée non seulement par le fait que le son ne peut s'extraire de l'écoulement du temps et par le fait que l'expérience de l'auditeur donne lieu à un récit, mais, troisième lieu, par le vocabulaire de la théorie musicale. Dès le XVe siècle, par exemple, on emploie le terme de haut et de bas pour désigner l'aigu et le grave. Le système harmonique lui-même se fonde sur la notion d'intervalle, que la plupart des manuels de théorie musicale définissent encore comme, je cite, « la distance qui sépare deux notes ». Ainsi, Avec l'harmonie, la musique occidentale inscrit au cœur de sa définition la notion de distance par laquelle nous avons défini l'espace. La distinction des gammes mineures et majeures, l'art des dissonances et des consonances, la nécessité d'en passer par des accords de passage, tout cela suppose en effet d'ordonner les sons selon des rapports de proximité et d'éloignement. Sans doute, vous me direz que ces distances ne sont pas établies entre deux points placés sur un plan quadrillé. Et l'éloignement ou la proximité concernant, et que l'éloignement ou la proximité concernent des longueurs d'onde et non des longueurs géométriques. Mais je vous ai proposé de penser que seul le parcours devait nous servir de critère pour la configuration des espaces. Et en tant qu'une note contient des harmoniques, qui sont autant de routes pour passer de l'une à l'autre, en tant qu'on ne peut indifféremment passer d'une note à l'autre, mais qu'il faut préalablement instaurer des modulations, il y a bien, au moins pour la musique tonale classique occidentale, des écarts ou des distances dont les rapports arithmétiques de longueur donnent la mesure. L'utilisation que Xenakis fait comme musicien et ingénieur de la structure ondulatoire du son pour créer des espaces architecturaux vient d'ailleurs renforcer, je crois, cette conception spatiale de la musique. Car non seulement Xenakis n'a pas cessé de travailler sur les conditions spatiales de production du son, sur la stéréophonie, sur les matériaux propices à son absorption ou à sa réverbération, mais il a construit par exemple, je pense pour le couvent de la Tourette en 1953, des espaces courbes en appliquant la méthode de composition utilisée dans son œuvre musicale Métastasis, et en façonnant des pans de verre ondulatoires qu'il a lui-même appelé, ou auxquels il a lui-même donné le nom de pans de verre musicaux. L'idée que la musique ne peut être saisie que par des parcours sonores, dont les récits des auditeurs donnent la musique, contient plus que la notion d'espace, elle contient la notion de milieu. La situation placée de l'auditeur, placée au cœur des vibrations sonores, peut donner une première image, une première approximation d'un espace musical se déployant non pas devant nous, mais autour de nous. Seulement, à peine cette image convoquée, elle doit être nuancée et prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire seulement une image. Je dis ça car ce n'est pas parce que la mélodie se déploie dans l'air, mais bien parce que l'entendre, c'est la parcourir, que l'espace musical ne peut pas être une surface, mais doit nécessairement se métamorphoser en milieu. J'essaye d'expliquer ce point. Parcourir quoi que ce soit, même une étendue, par exemple une forêt, c'est bien cesser de la contempler pour s'y enfoncer. Dire que l'espace musical est un espace parcouru, c'est reconnaître que tout parcours nous immerge dans l'espace et, ce faisant, le transforme en un milieu. Or, la différence entre le milieu et l'espace, conçu comme une extension géométrique, conçu seulement comme une extension géométrique, entre ce milieu et l'espace ainsi considéré, il y a une différence de nature presque ontologique. Alors que l'espace géométrique est passif, pur support de déplacement qu'il ignore, le milieu, lui, est actif ou agissant. Quand Newton veut calculer la force d'attraction de deux corps A et B, l'espace qui entoure les deux corps ne joue aucun rôle physique et, je l'ai mentionné, n'intervient dans le calcul de la gravité que comme distance. Pour la physique classique, l'espace est à ce point inconsistant ou passif que le mathématicien Hermann Weyl peut écrire, je le cite, « La force de Newton est une liaison entre deux corps qui joignent leurs mains au-dessus d'un abîme. » Je comprends, au-dessus d'un espace translucide, dépourvu de toute possibilité d'agir sur les corps qui se déplacent à sa surface. Or, une telle conception, qui ne fait de l'espace guère plus qu'un décor de théâtre privé de tout effet dramatique, une telle conception de l'espace est abstraite. Retournons encore vers l'océan. Il n'est pas pour le poisson une étendue d'eau inerte peuplée seulement d'autres poissons et de quantités d'algues. L'océan est constitué de courants, des masses d'eau y circulent, des zones froides succèdent aux zones chaudes. L'océan n'est pas un cube dans lequel se trouve de l'eau, c'est un ensemble de courants, de lignes de force. Dire que l'espace est actif, c'est dire qu'il contient des déplacements potentiels, ceux que dessine, par exemple ici, le sens des courants. Cet espace ne se définit pas seulement par des distances, par la mesure d'un écart entre deux corps, mais par les forces auxquelles il soumet tous les corps qui s'y trouvent. Ainsi, Le Soleil, dans la théorie de la relativité générale, crée autour de lui un milieu, un champ, c'est-à-dire un espace au sein duquel un nouveau corps se mettrait en mouvement du seul fait qu'il y prend place. Si la musique peut constituer un espace, c'est, je crois, à la condition de la penser comme champ, la musique. Comme milieu constitué de pôles d'attraction ou de répulsion que nous pourrions nous représenter comme des vagues à la surface d'un lac ou, si on veut être plus fidèle à une certaine réalité physique, comme des ondes électromagnétiques. Imaginons en effet des rythmes, des timbres, des hauteurs, des lois harmoniques. Tout cela crée des pôles pour les mouvements du corps. Nous sommes poussés par un rythme ternaire. Un autre se superpose qui nous perd. Nous voilà entraînés par une mélodie. Puis une septième se glisse dans la succession des tierces et des quintes et vient comme une force contraire nous repousser hors du flux musical où nous nous étions installés. En ce sens, les ondulations musicales ne sont peut-être pas autre chose que des ondulations marines ou, mais c'est là évidemment seulement une analogie, qu'un champ magnétique. Associé à la notion de milieu, la question de savoir comment la musique peut agir, question qui est ma question initiale transformée, mais la question de savoir comment la musique peut agir sur nous à distance, magiquement ou mystérieusement, disons de façon non mécaniste, trouve, je crois, un début de solution. Car, toute proportion gardée, le problème posé par l'action de la musique sur l'âme n'est pas différent de celui insoluble aux yeux de la physique classique, de savoir comment deux corps éloignés peuvent interagir immédiatement et sans contact. Grâce à la notion de champ, que j'emprunte au précurseur de la théorie de la relativité, évidemment que je caricature honteusement, nous pouvons proposer une solution. La musique agit sur nous, non pas comme un mobile frappant un autre mobile, de façon mécaniste, mais comme une masse d'eau sur une baleine, ou le réchauffement climatique de la température dans l'Arctique sur le déplacement des ours polaires. La musique fait baigner le corps dans un milieu sonore auquel il réagit, mais sans être conditionné par lui. Entre la force déployée par le milieu musical et mon corps, il y a bien un rapport, mais non pas un rapport de consécution ou un rapport de causalité. Je pense à Nietzsche, qui décrit ses relations à l'écoute de la musique de Wagner, non pas en termes esthétiques, mais, les passages sont très très connus, en termes physiologiques, qui raconte comment ses nerfs, son estomac, son sang ne peuvent se tenir au sein de cette musique. Le corps de Nietzsche est, dans la musique de Wagner, pareil à celui d'une baleine prise dans les courants océaniques. L'un et l'autre s'y meuvent avec leur instinct, leur force et les motivations qui leur sont propres. Le parcours dont l'auditeur fera le récit est un mélange impur, une composition irrationnelle entre des forces extérieures et l'état du corps aux prises avec ces forces. Inutile d'introduire ici, je crois, des distinctions entre le corps et l'esprit, les nerfs et l'émotion. L'homme convoqué par le parcours musical, puisqu'il ne peut avoir une position de surplomb, ai-je dit, est un homme total au sein duquel il n'y a pas lieu de séparer l'intestin de l'émotion la plus spirituelle. Le corps de Nietzsche, c'est-à-dire sa pensée, sa philosophie, tout autant que son pied, s'emballe à l'écoute de la musique de Wagner, quand d'autres corps la sentent à peine ou s'y noient avec extase. Expliquer ainsi l'action de la musique sur nous ne dissipe pas la magie dont je parlais au début. Car je ne peux pas donner ici les lois de cette rencontre entre l'activité du milieu musical créé par une œuvre et le tempérament d'un corps. Mais cette vision de l'espace musical permet, me semble-t-il, ou en tous les cas, mais vous me direz ce que vous en pensez, le mérite de surmonter l'aporie logique ou métaphysique dont je vous ai fait part en commençant. Elle présente le double avantage, me semble-t-il, d'une part de pouvoir rendre compte de l'action de la musique à distance sur nos corps, en évitant d'avoir recours à un miracle, et d'autre part, elle nous dispense de rechercher un rapport de causalité là où peut-être il n'existe pas, expliquant ainsi rationnellement à quoi tient la part mystérieuse du pouvoir que la musique a sur nous. Si je continue de prendre pour guide la conception de l'espace musical que je vous propose, et si on m'accorde, j'espère, qu'il y a dans ce parallèle entre l'espace musical et la notion de champ, telle qu'elle est développée par la physique contemporaine, non pas un modèle, mais un encouragement à penser l'espace de façon inétendue, je trouve dans le concept de champ, outre son activité dont je viens de parler, une seconde caractéristique qui m'intéresse énormément, c'est son immatérialité. En effet, la capacité du champ électromagnétique à recevoir, à stocker et à transmettre de l'énergie ne dépend aucunement de la matière. Maxwell, dans les équations qui décrivent les phénomènes électromagnétiques dans le vide, ne fait intervenir ni la densité, ni l'inertie, ni aucune des grandeurs qui caractérisent la matière. Une telle indépendance du milieu par rapport à la matière est encore radicalisée quand Einstein montre que le champ électromagnétique, une fois constitué, se propage indépendamment de la matière, voulant dire par là qu'une fois engendré, il n'a besoin d'aucun support matériel pour persister. On pourrait ainsi imaginer, ou on pourrait imaginer, que cette seconde caractéristique s'applique aussi à l'espace musical, qu'elle s'applique tout autant que la première. L'espace musical, une fois arraché à l'extension géométrique, pourrait alors être défini comme un milieu actif dont la structure serait immatérielle. Je vais essayer d'expliquer ça. Enfin, de dire ce que j'ai, à quoi je pense. Pourrait être expliqué comme un milieu dont les effets sur le corps qu'il contient ne pourraient pas être expliqués en ayant recours à des propriétés de la matière, par exemple aux propriétés de l'air. Car le son, compris comme ensemble de fréquences, n'est pas l'air. Si je précise cela, c'est parce qu'il me semble que ce qui nous empêche de consentir à l'immatérialité de l'espace musical, c'est le fait de rapporter la musique aux vibrations de l'air, et de faire ainsi de la composante matérielle du son un élément indispensable à la constitution de l'espace musical. Mais, de même que quand je me parle à moi-même, il y a bien un langage alors que nul son n'est émis, il y a bien de la musique quand je chante une mélodie dans ma tête, quand bien même l'air n'y intervient en rien. Nous pouvons tout à fait imaginer un jour intégrer dans nos têtes des lecteurs de musique qui nous feraient entendre nos œuvres favorites sans l'intermédiaire de l'air et sans faire vibrer nos tympans. Cette mélodie de Bach, que nous n'entendrions plus par nos oreilles, diffusée par un support matériel d'une toute autre nature que celle d'une toute autre nature que ceux auxquels nous avons aujourd'hui recours, serait pourtant le même air. Les polarités instaurées par l'utilisation des instruments anciens dans certaines versions d'œuvres de Bach, le tempo d'Arnoncourt, tout cela ne serait nullement affecté et mon corps parcourrait le même espace, quand bien même le support matériel serait radicalement différent. Le premier prélude de Bach, joué par Fats Waller au piano, déploie un champ d'énergie, un milieu. Ce champ est réel. Il n'est pas configuré par la seule partition de Bach, mais par la sonorité du piano, l'attaque de Fats Waller, les conditions d'enregistrement. Les caractéristiques de ce champ, les parcours possibles qu'il contient, les potentiels d'énergie, les points de contraction et de détente, tout cela, une fois produit, s'ordonne selon d'autres règles que celles qui régissent les corps de Fats Waller, de l'instrument, du support qui fait entendre cette musique et aussi de Bach. L'espace musical, loin de laisser... laisse loin derrière lui, pardon, ce qui l'a fait naître et ce qui le fait entendre, exactement comme l'onde électromagnétique laisse loin derrière elle l'antenne qui pourtant l'a émise. Si on ne peut imaginer de musique sans un support matériel, j'en suis conscient, celui-ci pourtant n'est nullement consubstantiel à la définition de l'espace musical. L'histoire récente de l'économie capitaliste ne montre pas moins que la physique quantique la réalité de la constitution d'espace immatériel. Qu'est-ce en effet que la spéculation boursière, sinon des flux de capitaux immatériels et pourtant bien réels, qui, bien qu'engendrés par une activité réelle de production, développent une cohérence qui lui est propre? En cherchant à répondre à la question « Comment la musique agit-elle sur nous ?», je vous propose de produire une définition de la musique comme champ de force immatérielle, dont les propriétés sont indépendantes du ou des corps qui l'ont produit et qui obligent l'auditeur à un parcours. Comme la définition est très longue, j'en propose une autre, plus courte. La musique est un espace immatériel capable de provoquer en son sein le mouvement des corps. Or, cette définition est celle que l'on donne traditionnellement de l'âme. Dans le scénario théorique que j'essaie de construire et que j'essaie de vous raconter, j'en suis logiquement ou idéalement parvenu au moment où les spectateurs dans la salle, c'est-à-dire vous-même, pourraient vous écrier intérieurement « Ah, pas mal !» Au moment, logiquement, où dans les films se nouent deux intrigues qu'on avait cru disjointes. Et bien sûr, je suis conscient qu'on n'est pas au cinéma et que l'intensité dramatique de mon exposé n'a qu'un rapport assez lointain avec le scénario d'un film de Spielberg. Toujours est-il qu'il y a là tout de même un élément de surprise, enfin de surprise personnelle en tous les cas, qui réside dans le constat que la définition de la musique comme espace immatériel capable de mettre le corps en mouvement coïncide avec la définition traditionnelle de l'âme. Je voudrais éclaircir un peu cette affirmation bizarre. Je demandais en commençant pourquoi écoutons-nous tant de musique ? Pourquoi nous est-elle nécessaire ? Voici ma réponse. Parce que la musique est notre âme. Parce que faire de la musique, c'est exactement construire notre âme. Poser une telle équivalence, c'est dire que celui qui répond à la question « qu'est-ce que l'âme ?» ne peut le faire sans convoquer des propriétés qui sont exactement celles de l'espace musical. Ou encore, que l'invisibilité de l'âme, son immatérialité, sa fonction motrice, son immortalité même ne sont réalisées et concrétisées que dans et par la musique. Dire que l'espace musical est notre âme revient, je crois, à dire que ce n'est qu'en tant que nous déposons nos sentiments, nos luttes politiques, nos cris inarticulés et nos sermons dans l'espace musical qu'ils forment une âme. En disant cela, je ne dis pas que la musique exprime l'âme, ou que cette dernière trouve dans la composition ou dans l'audition le moyen privilégié d'exprimer ses élans. La musique n'est pas une extension de l'âme, par où l'âme conquérerait une matérialité. Pas plus que la musique n'est une projection au dehors d'un espace intérieur qui existerait préalablement. Je crois que c'est là une vision romantique de la musique. Je vous propose de dire au contraire que l'âme n'existe que comme espace musical, c'est-à-dire que l'âme n'existe que hors de nous, et que ce sont les propriétés de l'espace musical qui expliquent secondairement l'apparente intériorité de l'âme. L'espace musical et notre âme veut dire que notre espace intérieur est en réalité à l'extérieur. Il y a une phrase posthume de Freud, très souvent commentée par Jean-Luc Nancy et par Derrida dans son livre sur Nancy, qui dit ceci: « Psyché est étendue, n'en sait rien. » Fin de citation. Si je cite cette phrase, ce n'est pas pour la commenter à mon tour, car en fait je crois que je ne la comprends pas. Mais parce qu'elle pèse lourd dans l'histoire que j'essaie de vous raconter. Je vous cite cette phrase parce que mon hypothèse en est, je crois, une reformulation, une réécriture déformée et infidèle. Je voudrais en effet dire quelque chose du genre « La musique est la vérité de l'âme, mais l'âme spatialisée n'en sait rien. » Pour légitimer maintenant un tout petit peu cette hypothèse, éviter de délirer complètement, je voudrais me retourner du côté de l'âme et essayer de montrer en très peu de temps, voilà, que les propriétés de l'espace musical sont aussi celles de l'âme. Étant entendu que je ne vais faire là que des remarques préliminaires, tout à fait incapables de satisfaire les philosophes professionnels qui sont dans la salle. Tout d'abord, je voudrais commencer par remarquer l'hétérogénéité commune de l'âme et de la musique à la sphère de l'étendue. Cette affirmation, j'en suis conscient, comme toutes celles que je vais rapidement survoler, concernant un concept aussi vaste que l'âme, évidemment devrait être nuancée. Bergson, dans ses cours sur les théories de l'âme, indique que, je le cite, Anaxagore, d'après ce que nous connaissons de lui, ne tenez pas le nous dégagé de toute étendue. Enfin, grosso modo, si vous êtes gentil avec moi, on pourrait dire qu'on pense à Platon ou à Aristote, et plus encore à la tradition chrétienne et à Descartes, la construction des définitions de l'âme va en général de pair avec un arrachement de ses qualités au règne de l'extension. Inétendue, l'âme, comme l'espace musical, est invisible. C'est ce que rappelle par exemple Socrate dans le Phédon, quand s'adressant à Cébès, il lui dit, je le cite, « De l'âme donc, que disions-nous ? Chose visible ou chose qu'on ne voit pas ? Chose qu'on ne voit pas. Invisible par conséquent.
Oui.
Donc l'âme a plus de vraisemblance que le corps avec l'espèce invisible et celui-ci en a davantage avec l'espèce visible. » Fin de citation. Inétendue, invisible, l'âme ne serait-ce que dans la mesure où elle échappe au sens, est immatérielle. Là encore, on pourrait dire que la philosophie ionienne de Thalès à Héraclite attribue à des éléments corporels les fonctions de l'âme et que je fais fi un peu facilement du matérialisme de Démocrite. Bon, tout ça, je passe très vite. Mais on m'accordera un peu que ces éléments physiques, les atomes d'Épicure, l'eau de Thalès, ne possèdent pas à proprement parler des qualités matérielles. Enfin, mais j'y reviendrai, lié à l'immatérialité, il y aurait l'immortalité de l'âme. Je ne dirais pas que l'espace musical est immortel, il y a même des limites, mais son indépendance vis-à-vis des corps qui l'ont produit, dont j'essaie de parler il y a un instant, laisse penser que l'espace musical perdure quand les corps se meurent. Ainsi, pouvons-nous, je crois, sans trop de difficultés, nous représenter un tableau dans lequel les termes que nous aurions à mettre dans la colonne de l'âme seraient identiques à ceux déjà placés dans la colonne de l'espace musical. Outre ce constat général, je voudrais encore mentionner juste deux éléments qui me semblent renforcer l'identification de l'âme et de l'espace musical. Le premier élément, c'est la fonction de l'âme comme principe de mouvement. Comme le fait remarquer Bergson, c'est sans doute le spectacle du cadavre qui a inspiré aux anciens Grecs la distinction entre le corps et l'âme. Alors que juste après la mort, le corps semble demeurer ce qu'il y était il y a un instant, quelque chose a disparu instantanément, et ce sont les mouvements internes et externes de ce corps. Quelque chose de plus subtil que le corps, et qui était capable de l'animer, semble donc s'être retiré au moment de la mort, l'âme. C'est d'abord et avant tout, comme principe de mouvement, par son automouvement si on peut dire, que Platon définit l'âme. Dans les lois par exemple, il écrit, je cite, « Ceux qui portent le nom d'âme, quelle en est la définition ? Sommes-nous en état d'en donner une autre que celle qui a été dénoncée tout à l'heure, qui a été énoncée tout à l'heure, le mouvement qui est capable de se mouvoir lui-même ? Et il en déduit immédiatement que, je le cite, l'âme s'est révélée à nous comme la cause, pour tous les êtres sans exception, de tout ce qu'il y a en eux sans exception de changement et de mouvement. » Fin de citation. Dans le Phédon, en 505b, 506d, je ne cite pas, l'âme apparaît comme la cause de la vie de tout corps vivant. On trouverait des affirmations, je m'en tiens juste à Platon, similaires dans le Phèdre, en 245e, dans le Cratyle, en 400a, où l'âme est présentée comme le support de tout corps vivant. Et on retrouvera encore, je crois, cette même idée chez Aristote, dans le De Anima, en 403b, 25-27, ou dans la Physique, en 255a, 5-7. Cette capacité de l'âme à mettre les corps en mouvement, à les animer à la fois de mouvements internes et externes, nous l'avons attribué à l'espace musical. Que ce dernier nous mette en mouvement, c'est là à peu près l'évidence dont j'étais parti. La danse, les émotions, la force d'entraînement ou d'apaisement sont les effets les plus visibles de la musique. C'est pour son emportement qu'on écoute de la musique, pour sa capacité à détourner nos élans intérieurs ou à les renforcer et à faire se mouvoir nos corps. Je suis conscient évidemment d'effectuer ici encore un rapprochement trop peu argumenté du fait qu'on pourrait m'objecter par exemple que nous pouvons nous mouvoir sans musique mais pas sans âme. Pour y répondre, pour répondre à cette objection, il faudrait que je montre comment chez Descartes, par exemple, l'âme ne régit pas tous les mouvements et comment beaucoup d'entre eux lui sont retirés pour être attribués à la constitution purement mécanique des corps. Ainsi, les animaux-machines de la maîtrise se meuvent, mais se meuvent sans âme. Je laisse de côté tout cela pour me concentrer sur l'idée plus générale que l'espace musical et l'âme remplissent une fonction similaire, la production de mouvements impossibles à penser sans eux. Le deuxième élément, il me reste 10 minutes, ça ira. Deuxième élément qui me paraît militer en faveur de l'identification de l'âme et de la musique, peut-être moins évidente a priori à saisir, c'est que l'âme n'est pas dans le corps, mais se déploie, bien que de façon non extensive, autour de lui. La vision de l'âme que le personnage du vieillard dans la pièce de Maeterlinck, Intérieur, exprime ainsi. Prenez garde. On ne sait pas jusqu'où l'âme s'étend autour des hommes. L'âme, comme l'espace musical, serait un milieu. Nous avons pourtant l'habitude de retenir l'idée inverse et de privilégier la vision d'une âme contenue dans un corps et évidemment prisonnière de lui. L'image de la mort comme libération de l'âme, comme moment de son échappée hors des murs du corps, semble en effet difficilement conciliable avec l'idée que je propose d'une âme nous enveloppant. Et je ne vais pas chercher d'ailleurs à concilier ces deux vues. Je rappelle quand même au passage que la plupart du temps, par exemple dans le christianisme, mais aussi chez Plotin et chez Platon, l'âme est d'abord extérieure au corps et que si elle ne meurt pas avec lui, c'est bien parce qu'elle lui préexiste, hors de lui. De même, l'idée que l'homme est un microcosme et qu'il hérite d'une partie de l'âme universelle permettrait, je crois, de sortir de cette apparente contradiction que je mentionnais en passant. Cette vision d'une âme englobant les corps devant nécessairement se répandre dans tout l'espace pour mouvoir chacun individuellement, mais en même temps, d'une âme irréductible à toute étendue, on la retrouve, je crois, dans le Timée de Platon. La cosmologie platonicienne demande en effet une âme capable, pour mouvoir le monde, c'est-à-dire tout aussi bien la sphère des fixes que les planètes et les éléments, d'être présente partout à la fois. C'est pour expliquer cette présence que Brisson, dans son livre « Le même et l'autre dans la structure ontologique du Timée de Platon », note que Platon, je le cite, a recours à une métaphore géométrique de l'extension pour parler de l'âme. Une telle extension est explicite chez Platon quand il écrit, je cite dans le Timée, « Ainsi l'âme, étendue dans toutes les directions, depuis les milieux jusqu'aux extrémités du ciel, l'enveloppant en cercle concentrique, etc. etc. » Or, cette extension fait de l'âme plus qu'un espace. Elle en fait un contenant. En 36DE, on lit, je cite, « Une fois que toute la composition de l'âme fut réalisée, après cela, c'est tout le monde corporel qu'à l'intérieur de l'âme, le démiurge se mit à construire. » Fin de citation. Seulement Brisson ne cesse de le rappeler, je le cite, « Il ne faut surtout pas faire de l'âme, du monde, une grandeur. Même si Platon nous décrit l'extension de l'âme à travers le corps du monde, on ne doit pas en inférer que l'âme a quelque chose à voir avec l'extension. » Fin de citation. L'existence de l'âme soulève donc, par exemple chez Platon, un paradoxe qui me paraît similaire à celui que j'ai soulevé par l'existence de l'espace musical, en ce qu'elle nous oblige à concevoir un élément invisible, immatériel, et pourtant capable de contenir, et parce qu'il les contient, de mouvoir les corps. À l'autre bout de la chaîne philosophique, je voudrais évoquer un texte de Foucault, que je n'expliquerai pas plus que je n'expliquais Platon. Faisant un parallèle entre le double corps du roi de Kantorowicz et le corps du condamné dans Surveiller et punir, Foucault fait l'hypothèse que son corps, le corps du condamné, se dédouble lui aussi comme le corps du roi, mais cette fois-ci non pas en un second corps glorieux, mais en un incorporel, une âme. Je vous cite juste ces quelques phrases de Foucault. « L'histoire de cette microphysique du pouvoir punitif serait alors une généalogie ou une pièce pour une généalogie de l'âme moderne. Il ne faudrait pas dire que l'âme est une illusion ou un effet idéologique, mais bien qu'elle existe, qu'elle a une réalité, qu'elle est produite en permanence, autour, à la surface du corps, par le fonctionnement d'un pouvoir qui s'exerce sur ceux qu'on punit. L'homme dont on nous parle et qu'on invite à libérer est déjà en lui-même l'effet d'un assujettissement bien plus profond que lui. » Voilà ce qui m'intéresse. Une âme le porte à l'existence qui est en elle-même une pièce dans la maîtrise que le pouvoir exerce sur le corps. L'âme, effet et instrument d'une anatomie politique, l'âme, prison du corps. Si je mets de côté la problématique qui occupe Foucault dans ce texte, j'y retrouve bien, et je ne vous donne là que des éléments pour une discussion, une conception de l'âme comme contenant ou comme milieu. Car dans ce texte, l'âme n'est pas seulement spatialisée, mais renvoie bien à un ensemble de dispositifs concrets, l'école, certaines procédures d'enfermement, les procédures de punition, par lesquelles les corps sont façonnés. On peut voir ces dispositifs induire des comportements, comme la musique induit le mouvement de la danse ou l'agitation des sentiments. Le corps, ici et là, est baigné, prisonnier, si on veut, d'un milieu invisible, mais dont il sent les résistances et les points d'attraction. Ce milieu n'est pas un second corps. Contrairement au roi de Kantorowicz qui possède un corps glorieux et incorruptible en réserve, un corps spirituel, un historique et qui surgira à la fin des temps, ceux dont parle Foucault n'ont qu'un seul et unique corps. Mais ce corps et ses agissements sont aux prises avec des procédures qui lui font une âme qu'il ne voit ni ne touche mais dont il subit les influences. L'âme fait le corps, non pas comme l'artiste fait l'œuvre, quoique l'idée, si je ne me trompe pas, d'une âme artiste sculptant le corps est présente chez Plotin, mais en constituant un milieu, un bain, dont les remous obligent le corps à certains mouvements, sans pourtant le déterminer mécaniquement. Cette idée de l'âme comme enveloppe du corps, je crois qu'elle se trouve enfin, et puisque j'ai parlé du blues tout à l'heure, dans le livre « The Sounds of Black Folk » de Webb Dubois. Dès sa préface, on peut remarquer que cela va signifier ce que cela va signifier que d'avoir deux âmes, l'une noire et l'autre américaine. Dubois, pour signifier cette différence, distingue deux mondes. Celui qui est hors du voile et celui qui est dans le voile. Être noir, c'est voir son corps et ses gestes, ainsi que l'ensemble de ses comportements, se déployer à l'intérieur d'un voile. Dubois écrit, je le cite, « Les noirs doivent perpétuellement discuter le problème noir. Ils doivent vivre, se déplacer, déployer tout leur être en lui et interpréter tout le reste à sa lumière ou à ses ténèbres. Le problème particulier, je cite toujours Dubois, de leur vie intérieure sont aussi étroitement liés à lui. Le statut des femmes, le maintien d'un foyer, la formation des enfants, l'accumulation des richesses et la prévention du crime. » Fin de citation. Je crois reconnaître ici, et j'en parle puisque j'avais essayé de dire que le blues pouvait être l'espace noir américain, je crois reconnaître ici une problématique similaire aussi à celle de Foucault. Je vois l'âme des Noirs identifiée ici aussi à des dispositifs concrets liés à leur situation, faire effectivement un voile invisible à l'intérieur duquel s'agitent toutes les questions et tous les comportements d'une vie singulière. Cette âme, je la vois en grande partie, mais fabriquée par l'Église et notamment par ses chants, qui, je cite Dubois, entend l'Église en tant qu'institution sociale, précéda de plusieurs décennies le foyer noir monogamique, et qui, je le cite encore, à elle seule, exprime la morale, la vie intérieure de tout un peuple, à un point rarement rencontré ailleurs. L'institution ecclésiale comme âme, l'âme comme intériorisation de l'Église, voilà encore un thème qu'il faudrait, je crois, développer, non seulement en ce qui concerne le cas singulier des Noirs américains, mais plus généralement le christianisme lui-même. Je pense au livre de Dominique Ionia Pratt, La Maison de Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, dans lequel il montre comment l'espace réel de l'Église sert à penser l'édification de l'âme du fidèle comme temple de Dieu. Il cite notamment un sermon d'Ornorius Augusti Dunensis, qui, dans une dédicace d'église, prend le bâtiment pour modèle de la construction intérieure. La demeure antérieure étant l'âme, l'autel, le cœur, la tour, la tête, la cloche, la langue, les fenêtres, les yeux. Et puisque mon chemin passe par le blues, j'achève la présentation de la théorie pour illustrer concrètement, je repasse par l'histoire du blues pour illustrer concrètement ce que pourrait signifier l'identification de l'âme et de la musique. Que le blues en tant qu'espace musical puisse être considéré comme l'âme des Noirs américains, j'en trouve la trace par exemple dans un discours prononcé le 28 juin 1964 par Malcolm X lors d'une réunion de l'Organisation de l'Unité Afro-Américaine. Il y déclare « Le musicien noir prend son instrument et souffle des sons auxquels il n'avait jamais pensé avant. Il improvise, il crée, et cela vient de l'intérieur, c'est son âme, c'est la musique de son âme. C'est en Amérique le seul domaine où l'homme noir a eu toute la liberté de créer. » Je la retrouve aussi chez le saxophoniste Ornette Coleman, qui écrit « Les meilleures expressions que les nègres ont données de leur âme sont et ont été prononcées au saxophone ténor. » Ces citations et 10 autres que je ne vous donne pas, que je laisse de côté, sont communes dans la bouche ou sous la plume des jazzmen ou des écrivains noirs, je pense aussi à Toni Morrison. Elles reposent entre autres sur le fait que le blues désigne un sentiment de l'âme et un sentiment si propre aux Noirs américains que Lee Belly, un des premiers bluesmen, peut déclarer, je le cite, « Aucun homme blanc n'a jamais eu le blues. » Entre ce sentiment, dont Webb Dubois fait le sentiment propre de l'âme de l'esclave, et le blues comme musique, au fond n'est maintenu que la différence entre l'intérieur et l'extérieur, le blues faisant résonner à l'extérieur une tristesse enfouie dans les profondeurs de l'âme. Mais c'est justement cette différence que je vous propose de supprimer, en identifiant l'âme à l'espace musical. C'est seulement pour une âme conçue comme profonde, intérieur, que la musique représente un geste d'extériorisation. Sans doute le sentiment préexiste à la musique, mais un sentiment ne fait pas une âme. Il faut pour cela qu'il s'enfle, qu'il devienne principe moteur, qu'il se fasse enveloppe, voile, milieu. Il faut encore qu'il perde sa singularité, sa corporéité, en cessant d'être le sentiment de ce corps-là. Or, cette opération de transformation, je vous ai proposé de dire qu'elle s'effectuait par et dans la constitution d'un espace musical. Ce sont les propriétés de cet espace qui permettent non seulement l'identification d'une âme, mais la désignation par ce terme d'une intimité enfouie métaphysiquement sous l'épiderme, dans une intériorité qui n'est à l'intérieur de rien. C'est parce que l'espace musical est l'espace de la profondeur que l'âme est dite profonde. Mais comment, et je finis, et pour quelles raisons conserver de la profondeur à un espace musical alors que j'ai eu tant de mal à l'arracher à l'étendue et à l'arracher au règne de la longueur et de la largeur. Si on peut, je crois, attribuer à l'espace musical une profondeur au moment où on lui refuse largeur et longueur, c'est parce que le parcours dans lequel j'ai tenté de voir l'essence de l'espace consiste précisément, de par son déploiement, en une expérience de la profondeur. Une telle profondeur n'est pas une troisième dimension de l'espace, une flèche pointée vers le bas sous la coque du navire et qui indique que la mer n'est pas que longueur et largeur. La profondeur est une conséquence nécessaire de l'acte de parcourir. Parcourir, c'est rendre profond cela même qu'on parcourt, c'est, ai-je dit, quitter une position de surplomb pour s'immerger dans un espace et en faire un milieu. La profondeur ne préexiste pas au parcours, comme la troisième dimension d'une boîte préexiste à la main qui cherche un objet à tâtons. Elle est fabriquée par le parcours. La profondeur ici n'est pas une dimension supplémentaire de l'espace, mais sa seule et unique dimension. La musique, en tant qu'espace de parcours, impossible à saisir par la contemplation, est l'espace de la pure profondeur. En ramenant la profondeur de l'âme, ou l'idée d'un espace intérieur à l'espace musical, on pourrait ainsi à la fois défendre une conception non métaphorique de l'âme, une conception matérialiste, si ce terme ne prêtait pas ici à confusion, et en même temps expliquer l'impossibilité qu'on a à situer l'âme quelque part. Profonde, notre âme l'est, mais d'une profondeur située hors de nous et que nous ne cherchons en nous que parce que notre âme spatialisée n'en sait rien. C'est dans les parages de ce dernier paragraphe et pris dans le mouvement de mon exposition que j'ai entendu dans ma tête la voix de Denis Guénoun me dire doucement mais avec autorité, premièrement, il faudrait penser à ne pas être trop long, et deuxièmement, et alors ? Et alors, pourquoi cette ébauche de théorie de l'espace musical ? Répondre à une telle question, mais je ne sais pas, répondre à une telle question, ça aurait pu être d'abord dresser une liste de conséquences à cette petite théorie, un peu à la manière de ces inventeurs d'objets farfelus qui, pour légitimer leur invention, énumèrent à tout ce à quoi elle peut servir. J'aurais ainsi pu faire une liste exhaustive, j'en ai une dans la maison, une liste exhaustive de toutes les conséquences que je crois pouvoir attribuer à cette petite théorie. Mais puisque je n'ai pas le temps, je vous passe toutes ces conséquences. Parce que, de toute façon, même si je m'évertuais à compléter cette petite liste et à les multiplier les conséquences que je pourrais vous donner, je ne suis pas sûr d'échapper à la suspicion guénounienne du « et alors ». Car la question pourrait être adressée à ces conséquences mêmes. Produire une définition matérialiste de l'âme, et alors ? Tirer l'intériorité devenue extérieure vers une certaine universalité pour la soustraire à l'emprise de la subjectivité, c'est une de mes conséquences. Et après, conclure que les communautés, ça j'aime beaucoup, on parle pas, conclure que les communautés politiques ne sont pas des corps mais des âmes. Et puis quoi ? Pour interrompre, au moins provisoirement, la valse du pourquoi, je voudrais donc juste utiliser ce que j'ai dit du rapport entre l'âme et la musique et interroger, en un mot, le lien entre théorie et pratique présupposé, me semble-t-il, par l'existence même de la question. Si je convoque ainsi sans prévenir le couple théorie et pratique, c'est parce que je crois que le basculement de la théorie dans la pratique est la réponse qu'on attend de moi ou qu'on attend du conférencier quand on lui pose une telle question. Je crois que tout se passe comme si la question « Pourquoi une théorie de l'espace musical ?» n'avait de réponse satisfaisante dans la tête de ceux qui posent la question, et c'est-à-dire dans la mienne aussi, qu'à la condition de montrer comment une telle théorie engage, d'une manière ou d'une autre, une pratique. L'injonction faite au philosophe par Marx dans sa ancienne thèse sur Feuerbach de changer le monde plutôt que de l'interpréter, ou l'énoncé toujours dans ces mêmes thèses selon lesquelles, je le cite, « c'est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, c'est-à-dire la réalité effective et la puissance, le caractère terrestre de sa pensée », fin de citation, pourrait ici servir de modèle pour penser le rapport entre théorie et pratique, sous-entendu, je crois, dans la question pourquoi. Passerait le test, la théorie qui serait capable de montrer par où elle est susceptible de retourner à la pratique, de s'y livrer pour succomber et renaître tout à la fois. Or, qu'attend-on quand on attend qu'une théorie rejoigne la pratique ? On attend qu'elle produise des effets. Non pas n'importe quels effets, mais des effets dont précisément elle soit la cause, ou moins une cause dominante ou nécessaire. Nos attentes tiennent ainsi pour acquis que ce qui doit définir le rapport entre la théorie et la pratique, c'est précisément un lien de causalité, un lien mécanique, presque mécanique, entre la pensée et l'action. Or ce lien de causalité presque mécanique, de causalité en ligne droite, dirais-je, en tous les cas de causalité rationnelle, c'est ce lien que mon propos, je crois, sur l'âme et la musique pourrait permettre d'interroger. Je voudrais vous proposer, pour finir, de penser que nous devrions peut-être renoncer à chercher un rapport de causalité entre la théorie et la pratique. Que peut-être une théorie n'a pas à produire d'effet dans le réel, si on entend par effet ce qui se déduit rationnellement d'une cause. La théorie n'a peut-être pas à rejoindre la pratique, à se contorsionner pour, ultimement et dans un dernier effort, toucher le corps de la pratique avec l'extrémité de son doigt immatériel. Elle a peut-être à agir à distance, comme une planète qui agit sur une autre planète en ignorant tout d'elle jusqu'à son nom. Une théorie de l'espace musical pourrait alors peut-être nous permettre de penser à un autre type d'action. Elle nous apprendrait peut-être à laisser mystérieuse l'action de la théorie sur la pratique, à accepter de faire de la théorie sans savoir par où, et même si elle va rejoindre le monde. Peut-être qu'aucune théorie de celle du genre que je vous propose, ou de peut-être même du genre de celle qu'on fabrique en philosophie, n'a jamais produit aucun effet direct sur le monde. Et peut-être que ce n'est pas plus grave que ça. Car incapable de faire se mouvoir le bras d'un homme, la théorie n'en édifie pas moins un milieu immatériel. Elle n'en configure peut-être pas moins une toile invisible qui, dans une temporalité dont j'ignore tout, incitera un jour un corps pris dans ses filets, à se mouvoir, sans trop savoir pourquoi, autrement.
Voilà. C'est à nous. Je n'ai pas. Je ne voudrais aucun commentaire préalable. C'est trop long. J'ouvre l'espace de cette conversation comme cela vous convient, Jean-Baptiste.
De faire
signe.
Ok.
De faire signe. Puisque c'est une facilité, en fait, c'est un aspect qui est intéressant. Dans une coupe, il est passif. Alors, dans cette facilité-là, se joue pour celui qui est quelque chose qui se consiste à faire signe. Et dans ce faire signe, dans la construction, dans ce que je veux dire, peut-être il y a des choses qui se réfléchissent à ce que.
Ah oui, je ne sais pas comment on fait.
Comment? Ah, ça, c'est ma remarque, mais ce n'était pas
pour. Oh, ok, ah ben je réponds rien.
Parce qu'il y a tellement de choses à faire, la deuxième, c'est assez question qui n'existe pas. Pas la première possibilité, parce que la première possibilité sera. Et tu as distingué le bruit de la porte, là, tu as dit. Et non, on voit bien.
Alors, je me permets, excusez-moi, de répéter, parce que bon, les gens ne m'ont pas écouté, je ne vais pas redire ce que tu as dit, mais si je redis d'une phrase, la dernière partie de la question de Jean-Baptiste posait sur le fait de savoir si, dans l'opposition entre la musique d'une part et le bruit, la porte qui claque d'autre part, où était la voix de celui qui parle à quelqu'un d'autre. Est-ce que la voix de celui qui parle à quelqu'un d'autre est intégrée dans la construction proposée par Thomas à propos de la musique? Ou est-ce que ça fait une différence et laquelle? Excuse-moi de la simplification, Jean-Baptiste. Alors, tu fais comme tu veux. Si tu veux répondre tout de suite, si tu es trop fatigué, que tu veux.
Je suis claqué.
Tu veux laisser du temps.
L'avantage d'avoir plein de questions, c'est qu'il y a plein auxquelles je pourrais pas répondre. Oui. Ça m'évoque des trucs.
On peut entendre plusieurs personnes dans la salle parler. Tu peux répondre absolument quand tu veux.
Non, allez-y, moi.
C'est comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. D'autres réactions? Oui, madame.
Quelle réflexion intervenant de la pratique.
Je n'en ai pas la moindre idée. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Enfin, j'entends. C'est marrant d'ailleurs, parce que il y a une dizaine d'années, on avait fait un groupe de travail sur Althusser, sur Marx, etc., où on était effectivement baigné dans le rapport. C'est la théorie ne peut retourner à la pratique que parce que la théorie part elle-même de la pratique et donc par cette sorte de cercle, etc. Bon. Et il n'empêche, moi, mon idée, c'était presque c'est même pas une idée. Ça consistait simplement à dire le passage, peut-être même que le passage pratique-théorie, théorie retournant à la pratique, qu'on essaye de penser de façon un peu mécaniste, j'allais dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la pratique produit la théorie, et puis cette théorie, par exemple chez Marx, en quoi la théorie révolutionnaire va-t-elle effectivement la conscience de classe, va-t-elle effectivement produire de fait une révolution, mettons. Je trouvais que ce lien, j'ai toujours le sentiment que ça marche pas, mettons. Ok ? Alors, en tous les cas, par exemple, si je me situe dans une tradition marxiste, je pourrais prendre plein d'exemples de gens qui ont dit ben, ça ne fonctionne pas. Bon. Et alors, du coup, je me suis dit, oui, mais c'était pas pour retirer tout rapport entre théorie et pratique. Je n'ai pas du tout voulu dire, je me suis très mal exprimé, dire « Oh, moi, je fais de la théorie, puis regardez, je m'en fous complètement. » J'ai peut-être dit ça, là, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, faisons des théories qui sont un peu comme peut-être des fictions, je sais pas quoi, c'est un autre débat. Faisons des théories. Et puis ces théories n'ont pas, je n'ai pas à chercher absolument la causalité, l'effet que cette théorie va produire. Mais je me dis, c'était ça mon idée de milieu, un peu comme la musique avec l'âme, je me dis, des théories peut-être se tissent, se rencontrent, puis elles font une sorte de milieu qui, d'une certaine manière, a bien un rapport avec la pratique, mais rapport que je suis incapable d'analyser, en un certain sens. Et... Je sais pas si je suis plus clair. Enfin, pour répondre maintenant à votre question, c'est-à-dire qu'est-ce qui moi dans la pratique m'a fait m'intéresser à ça, mettons. C'est pareil, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport de causalité qui m'a fait m'intéresser à ça, j'en sais rien, mettons. Qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser à ça, c'est que j'aime la musique, ça me plaît. Non, je fais exprès de vous faire une réponse. Je suis tellement sûr qu'elle est décevante, mais je veux dire, c'est justement ce que je veux dire, c'est-à-dire ça me plaît. C'est ça. Absolument. D'accord. Alors, on serait d'accord peut-être pour dire. Et alors, comment penser le rapport entre théorie et pratique hors du rapport de causalité? Et mettons que ça, c'est une proposition pour essayer de le penser hors de ce rapport. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas 10 manières autres que celle-là, évidemment, de penser à un rapport non causal entre théorie et pratique.
La voix.
Ouais, je réponds pas à lui. Évidemment, j'ai délibérément mis de côté la voix parce que quand on rentre sur le terrain musique et langage, là, c'est parti. Là, c'est un truc en soi. Puis alors là, est-ce que la musique est un langage? Donc j'ai mis de côté le fait de prononcer. Mais quand tu dis la voix, c'est pas de la musique. Je sais pas. J'ai lu il y a pas longtemps peut-être, en fait, est-ce que c'est son dernier texte, le dernier texte de Philippe Lacoulabarthe sur le...
C'est pas le dernier, mais c'est un des derniers publiés.
Un des derniers publiés, c'est sur... où il faisait c'est les conférences aux enfants, où il expliquait qu'est-ce que c'est que la musique. Et alors il dit, au fond, pour l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, le langage, c'est rien d'autre qu'une mélopée. Ça lui apparaît complètement assourdi, puis c'est comme une... Alors, je sais pas, quand tu m'as parlé, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, peut-être que je distinguerais dans ce que tu me dis, ton énoncé et ta voix. Ouais, j'ai l'impression que ça pourrait fonctionner, mais je sais pas, en fait, je dis ça, j'ai l'impression que ça pourrait marcher, c'est-à-dire que peut-être que le parcours que me fait faire ta voix n'est pas le même que celui que me fait faire ton énoncé. Et d'abord, c'est peut-être pas la même partie de moi qui fait le parcours, et peut-être que je fais pas le même, quand par exemple je m'adresse très violemment à quelqu'un pour lui dire un truc très gentil, avec un ton super violent. Je veux dire, je suis comme divisé, j'ai comme deux parcours qui me sont proposés. Un qui est de l'ordre de la tonalité, puis de l'autre qui est de l'ordre de la signification, si je puis dire. Alors ça me fait penser à ça.
René ?
Oui, moi, ce que tu viens de dire, moi je me dirais tout autant de la littérature, c'est-à-dire d'un langage qui est structuré, hein, avec une syntaxe, une grammaire, une construction d'ensemble, une architecture. On pourrait absolument comparer à une architecture musicale. Et j'en dirais tout autant pour ce que tu viens de dire de la voix. C'est que, finalement, quand on aime un auteur, une écriture, c'est absolument indépendant, je crois, des signifiants. et il y a une atmosphère, ce que tu appelles un milieu, qui est propre à cet auteur-là, et qui tient à quoi? Alors, c'est ce que j'ai énormément aimé dans ma conférence, c'est que, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de causalité, tu ne l'as pas cassé, et la réponse que tu as donnée tout à l'heure à madame n'est pas une réponse décevante, tu ne l'as pas cassé, tu l'as complexifié. Et pour moi, c'est la réponse, enfin, l'élément de réponse, disons, aux questions les plus importantes qu'on peut se poser, quand on est précisément matérialiste. Il y a des causalités, elles ne sont pas mécaniques, elles sont complexes. De quel ordre sont-elles? Je te réfère à l'âme. Quand on ne fait pas plus ce soir, je suis encore ému par tout ce que j'ai entendu. Ce n'était pas une question.
Bon, alors, moi. Non, c'est... Il y a un point où je m'arrête, qui est vraiment une question. Alors bon, je te suis tu complètement ce que tu proposes comme. Enfin, je vais le formuler de deux façons. D'abord, ce que tu proposes comme arrachement à l'étendue, au titre du parcours. Bon, c'est une question qui t'occupe depuis 15 ans, mais que tu n'avais jamais, à ma connaissance, formulée comme ça dans un énoncé public, enfin articulé. Une question qui t'occupe beaucoup. Je n'ai jamais entendu dire de façon aussi organisée, aussi, enfin une proposition aussi riche que celle que tu as faite pour nous ce soir, et que je te remercie beaucoup d'avoir élaboré pour cette circonstance. Je sais que ça t'a occupé longuement. Donc, tout ce qui est l'arrachement au parcours et toute la façon, l'arrachement du parcours à l'étendue, hein, la façon dont tu l'as construit étape après étape, c'est très. Enfin, moi, je trouve ça absolument convaincant. Totalement, totalement convaincant. Ça arrive à un point où. J'ai dit, mais pourquoi ça? C'est lorsque rentre le mot immatériel. Bon, alors, c'est peut-être. Pourquoi ça? Et pourquoi immatériel? Alors d'abord une question qui est une question de fait. Est-ce que le champ magnétique c'est immatériel? J'entends bien et tu le montres très très bien que ça a demandé dans son élaboration. C'est pas le détail mais je crois pouvoir le dire. Ça a demandé dans son élaboration à un moment donné de s'arracher à des propriétés reconnues de la matière comme telle. Hein, et en particulier telles qu'elles étaient reconnues au moment où le concept a été produit. Ça a donc demandé de s'arracher à une certaine détermination du matériel comme tel. Mais est-ce qu'on peut dire, question que je me pose, vieille question aussi, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il est légitime de dire, je ne sais pas, que le champ, par exemple, le champ tant tel, par exemple le champ électromagnétique, est immatériel? Moi, personnellement, je ne suis pas sûr. Et c'est façon de dire que. Je ne sais pas s'il n'y a pas un point où, à ce moment-là, on cède quelque chose. Cède à une. Alors que, dans ce que tu proposes, et dans la deuxième partie un peu soufflante, quoi, de ton discours, vraiment soufflante, quoi, en tout cas pour moi, si. On peut la lire de deux façons. Tu dis la musique, c'est l'âme. Bon, alors tu as très soigneusement et très rigoureusement écarté cet énoncé de dire celui qui consisterait à dire c'est l'expression de l'âme, enfin énoncé, c'est tous les multiples énoncés que tout le monde a à l'esprit ici, bon, très bien. Dire ça, mais néanmoins, c'est peut-être une question d'accent, une question de A égale A. Hein, est-ce que c'est pareil de dire la musique c'est l'âme? J'entends très très bien, c'est bien. Ou est-ce que ce que tu dis, pas, c'est quelque chose. C'est pareil, pourtant, tu nous dis l'âme c'est la musique. Mais c'est pourtant pas le même accent. C'est-à-dire, si tu dis l'âme c'est la musique. Voilà, bon, je dis la musique en réduisant et en brutalisant et en simplifiant transièrement ce que tu as proposé comme espace musical. Est-ce que l'intérêt est aussi vif si on dit que la musique c'est immatériel? C'est-à-dire que peut-être que lorsque tu dis, par exemple, cette chose magnifique de l'âme autour du corps, je reconnais, je pourrais alimenter de toutes sortes d'autres choses, à la fois littéraires, culturelles, enfin, moi je pense à des choses... C'est très très passionnant cette affaire, mais est-ce que c'est l'âme qui est autour du corps, est-ce que c'est pour dire que c'est purement incorporel? Et même si c'était incorporel, est-ce que c'est immatériel à être incorporel? Voilà. Alors, ou bien est-ce que l'immatériel c'est une propriété de la matière? Voilà, d'accord. Mais est-ce que c'est autre chose qu'un simple... Bon, j'ai dit ça au sens où, par exemple, je pense au truc incorporel, corporel chez Deleuze, disant les stoïciens. Hein. C'est-à-dire, incorporel, corporel, c'est... Il y a des incorporels, on sait bien, hein, Deleuze n'a pas arrêté d'en parler, et ces incorporels sont vraiment incorporels, mais on ne sait pas dire qu'ils sont incorporels, c'est pas dire que c'est, comme ça, l'esprit, au sens où ça échapperait au corps. C'est un dispositif, hein, un dispositif dans lequel les corps sont compris, qui accompagnent, qui avoisinent, qui doublent, etc., les corps d'une façon déterminée. Alors si on dit l'immatériel, c'est une propriété de la matière, ou une impropriété de la matière, quelque chose qui se produit avec le matériel, je sais, oui, peut-être, je ne suis pas sûr que le mot est le plus, mais peut-être, à ce moment-là, peut-être. Peut-être que c'est bien, mais je ne suis pas sûr que le mot est absolument le meilleur. Il faudrait bien savoir qu'est-ce qu'on dit dans le « im » de « immatériel », je ne sais pas. Mais en tout cas, si l'âme, c'est en ce sens de la musique, là, je vois quelque chose d'extraordinairement riche. C'est pas, ça ressemble pas à la musique, c'est la musique. Voilà. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est-à-dire ça devient l'âme, ça devient une espèce de une série de processus, de dispositifs, de... Je ne vais pas dire qu'ils sont matériels au sens déjà connu, mais ils sont des choses qui arrivent. Et... Est-ce que le mot immatériel, tu es bien sûr que c'est celui-là, peut-être que oui, hein, je sais pas, que tu veux. Voilà, c'est ça.
Ok, je comprends.
Il faut pas obligé de répondre, on peut le faire.
Non, de toute façon, c'est très clair, en t'écoutant, ce que j'ai pensé est très clair. Et très clairement, je me suis dit, boulette. Je me suis dit non, t'as raison, non vraiment. Et puis c'est vrai qu'incorporel c'est mieux, mais là je suis pas. Il faudrait que je travaille, que je réfléchisse. Mais en plus, il y a vraiment, quand je t'écoutais, je me disais, il y a une vraie hésitation. C'est vrai qu'il y a une vraie hésitation dans ce que j'ai dit. Je suis pas au clair avec ça, parce que moi, ce que j'ai envie.
Moi non plus, hein.
Ce que j'ai envie, moi, c'est que l'âme soit matérielle. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, je me dis, et puis de me dire, ah, mais en fait, si cette espèce d'âme qu'on n'arrête pas de balancer avec, je travaille beaucoup avec des trucs dans les doctorats en art et tout ça, les gens les gens te bassinent avec le truc du corps, par exemple. Le corps, le matérialiste, quand il y a du corps, et puis il y a le corps, etc. Bon, d'une part, le corps dont il parle, c'est souvent un corps qui est quand même un corps glorieux, quoi, souvent. Un corps qui est très théologique. Et d'autre part, du coup, je me suis trouvé à me dire, ah, mais en fait, on a oublié l'âme, sous prétexte que l'âme, c'est vraiment un pauvre truc de chrétien, entre autres, et que ça n'a aucun intérêt. Et je me suis dit, mais si on avait une définition matérialiste de l'âme, il y a un certain nombre de trucs, les cartes seraient un peu redistribuées autrement. Donc, quand tu me dis, mais pourquoi immatériel, ça vient un petit peu faire compliquer ton truc, je dirais, ah ouais, il faut absolument l'enlever. Non, il faut absolument enlever l'immatériel, il faut mettre autre chose. Alors, tu dis incorporel, ou alors immatérialité comme propriété de la matière. Ça, il faudrait voir avec des gens qui sont compétents, mais par exemple, le prof de physique quantique avec qui j'ai élaboré qui j'ai demandé de m'aider pour les deux, trois trucs que j'ai dit, lui me dit, oui, bien sûr, l'espace matériel, c'est avec des lâchements en physique. Mais effectivement, en quel sens, lui, il entend ça? C'est-à-dire, il faudrait que j'aille lui demander, disant, mais tu parles de quoi quand tu dis ça? Mais je suis vraiment d'accord avec toi, je pense qu'il faut vraiment changer ça. Oui, bah, en tous les cas, c'est ça que j'ai pensé.
Marc ?
Mais ensuite, tu vas poser une question sur l'espace, la espace musical. Et là, on se dit qu'il ne sera plus jamais question de l'âme. Si c'est l'espace, c'est fort que ça sera niche. Et puis, effectivement, pas mal quand il y aura la question de l'âme, tu fais coïncider les deux définitions. C'est assez. Tu demandes beaucoup d'objections. Au centre de ton exposé, la définition que tu fais de l'espace, c'est un point plus vif de l'exposé. Peu à peu, on comprend, qu'il y a besoin d'une définition de l'espace qui soit aussi perméable à des notions temporelles. Tous les plans que tu fais sur le parcours, etc. Parce que une autre question qui est développée en tout temps, c'est que si on part de la conception spatiale de la musique, on va avoir beaucoup de mal à dire quelque chose de la durée, de l'examen de la durée qui est musicale. Donc on revient quand tu retravailles la notion de l'espace pour lui permettre de rendre le caractère temporel. Ça passe essentiellement par notion par contre. L'espace, c'est un réseau de distance pour toi, et les distances qui ont été parcourues. Mais toutes les distances ne sont pas liées à des parcours. Les définitions de distance ne passent pas par un trajet. On prenait l'exemple de l'Atlantique, mais les exemples plus récents, le système solaire ne parcourt pas, et les distances sont calculées. Est-ce que la notion de l'espace enveloppe nécessairement celle de distance de laquelle on construit comme trajet, comme parcours? On va dire que le calcul est jamais un parcours idéal. C'est très important le travail qui fait de redéfinition de la notion de l'espace. Et pour moi, la façon dont tu joues avec l'espace, la durée, distance suppose
un parcours.
Je peux dire un truc?
Oh oui.
Je dis juste un truc qui me vient à l'esprit. Parce
peux m'aider aussi.
On a des fantasmagories comme ça. Il y a en tout cas une notion toute bête sur le plan cosmologique, hein, qui semblerait valider comme dans ce qu'il dit, c'est la unité de mesure de l'année-lumière. Parce que là, c'est une distance qui ne se définit que comme parcours. C'est un parcours, le temps que met la lumière à parcourir, voilà. C'est-à-dire, c'est pas, hein, c'est pas forcément le parcours, un parcours à nous, bien sûr, hein. Mais il me semble qu'en cosmologie, c'est vraiment entre le, c'est le parcours absolu, hein, c'est-à-dire le, voilà. Qui est du parcours, oui.
Ah, moi, j'ai vraiment, je trouve ça super. Non, parce que là, j'étais super mal. Je me disais, si, là, ouais, c'est vrai, il a complètement raison. Comment, non, je crois que ça se mesure en année. Ouais. Ceci dit, c'est vrai que faudrait. C'est une volonté de définir l'espace de façon praxéologique, en fait. C'est-à-dire de dire. L'espace comme c'est ça que je déploie en dessous de moi qui est contemplé, au fond c'est un espace abstrait et il ne devient, et peut-être on ne conçoit d'espace de façon pratique que à travers le parcours. Est-ce que ben, c'est beaucoup moins bien que ce que tu dis, mais ce que je veux dire c'est ça n'empêche pas que peut-être il y a encore des espaces, j'allais dire nous avons des types d'espaces qui sont des espaces abstraits ou encore des espaces contemplés, mais que la musique comme telle, c'est un espace parcouru.
Peut-être que les espaces
les
plus abstraits,
c'est
quelque chose comme une durée, comme un parcours.
Alors ça, évidemment, c'est ce que j'essaie de sous-entendre, par exemple, avec l'Atlantique, en disant l'Atlantique ne finira par être mesuré que après qu'on l'ait parcouru. C'est-à-dire, avant, l'Atlantique n'est pas un espace. C'est un espace c'est un truc mythologique, c'est pas un espace... c'est même pas un espace géométrique, quoi. C'est-à-dire, sur les anciennes cartes de géographie, c'est une bande qui est autour, elle n'a pas de largeur particulière. Donc effectivement, que tout espace, au fond, soit la se déduise du parcours, ça c'était mon fantasme, mais je sais pas, vraiment je peux pas le prouver là tout de suite.
Mais je peux dire un truc,
ah, quoi ? Ah bah oui.
Parce
bien.
Qu'on réfléchit, enfin là on réfléchit avec grâce à toi, parce que moi j'ai jamais pensé à ça, mais en tout cas il y a dans les questions cosmologiques, même un peu contemporaines, bon, l'intérêt qu'on y prend les uns les autres. Enfin, bon, moi j'ai l'impression que je vois les espaces, et Dieu sait que la notion d'espace est incroyablement complexifiée, hein, incroyablement enrichie, démultipliée, enfin pulvérisée à certains égards, ce sont toujours avec des parcours qui sont des parcours bon. De planètes, d'astres, etc., ou de corps, même de corps parfois par moment putatif. Et d'ailleurs, au passage, Marc, qui est très discret, nous livre une hypothèse qui est absolument... Ouais. C'est le calcul, c'est un parcours idéal. Ça, c'est vraiment très... très je crois que c'est exactement ça. Il faudrait voir idéal, dans quel mot, quelle conception de l'idéalité il s'agit ici, mais je crois en tout cas que dans les... C'est un parcours transféré, en tout cas, un parcours, transposé, je ne sais pas comment dire. Idéal, mais parcours idéal, c'est super. Oui, tu disais ? Philippe, tu veux dire quelque chose ? Madame, je t'en prie. Pardon, excuse-moi.
Ah. Est-ce que je fais quoi ? C'est des théories de l'espace et l'espace lui-même. C'est ça, ouais. Attends, j'essaie de... idéalement, l'idée, ce serait d'avoir une définition pratique de l'espace, et pas théorique. Non, je veux dire par là, ce que je veux dire, c'est de dire, en fait, un espace, c'est d'abord quelque chose qu'on pratique, c'est pas quelque chose qu'on calcule. C'est ça que je voulais essayer de dire. Si on renvoie, même quand on regarde les cartes de géographie, est-ce qu'on pourrait pas repartir de l'espace que nous, on connaît, qui est, au fond, notre pratique de l'espace, même si on regarde, je sais pas quoi, l'histoire des voyages, à travers l'histoire, hein, c'est où, petit à petit, l'espace devient un truc qui se déplie, qui n'a pas qui est absolument passif, et au fond, devient abstrait. Est-ce que, même en partant de là, j'aurais voulu revenir à quelque chose qui serait, en fait, tout ça, ça n'est jamais qu'une idéalisation, qu'une géométrisation d'un truc très pratique qui est le parcours. C'est-à-dire que plutôt que de se dire d'abord il y a des cartes, des machins, puis ensuite on fait des trajets, on fait d'abord des trajets, c'était l'idée. Donc, mais je sais pas du tout si je réponds correctement à ta remarque, mais donc j'aimerais pas identifier l'espace et la théorie du tout.
Alors, Philippe, Philippe, je t'en prie.
Sur ton film, à partir tout simplement d'énoncer la musique, c'est dans le train. Ça m'a fait penser à quelque chose. Et à ce jeu de langage, propre à la définition philosophique, qui consiste à dire ça n'est rien d'autre que A n'est rien d'autre que B. La musique n'est rien d'autre que le train. Ce geste de. Radicalisation, simplification, n'allez pas chercher à Dieu. Et c'est là que s'est posé pour moi le réel. C'est-à-dire, une fois qu'on est arrivé à ce jeu de langage-là, à ce n'est rien d'autre que, je me suis posé le réel. Et en fait, je crois avoir trouvé la réponse dans mon exposé même, à partir de ce don, cette première expérience, ce premier champ dont tu parlais, qui est celui de l'omniprésence de la musique. Ce qui, à mon sens, vérifie expérimentalement et pratiquement le caractère animé de la musique, c'est son omniprésence. Et à ce moment-là, il faudrait dire que l'âme, c'est comme une musique.
Non, de toute façon, il y aurait. J'ai rien à répondre, mais ça supposerait, il y a toute une part, évidemment, vous l'aurez compris, j'utilise ta remarque pour dire quelque chose qui n'est pas ce que tu attends, mais quand même, je voulais réagir à ce que tu dis sur Wittgenstein et sur le type d'énonciation philosophique. Évidemment, vous aurez bien vu que j'ai essayé de... C'est évidemment une question qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire, d'une part, il y a ce que tu dis... mais ce que tu dis, j'allais dire, qui est le propre, enfin, je suis tout à fait d'accord, le propre de l'énoncé philosophique, mais je voulais le jouer un peu comme quand, je voulais le jouer, c'est-à-dire, je voulais qu'on dise, ouais, la philo, enfin, excusez-moi d'être bête, quoi, mais, ouais, la philosophie, ouais, elle dit ça, et puis, c'est ça, je vais le dire alors. Mais, sous-entendu, ce que j'essaie de dire avec madame à propos du rapport théorie-pratique, sous-entendu, c'est pas très grave, c'est-à-dire, peut-être ce que vous développez ici sous le terme de fiction, ou je sais pas comment dire, de fable, ou j'étais pas là. Mais, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas, c'est un discours philosophique, mais qui, je sais pas, avec comme une couche de, d'ancrage ontologique et de sérieux et de gravité en moins. C'est-à-dire, c'est comme si, oui, ce n'est que ça, mais c'est que ça, c'est bon, ok, c'est que ça, mais on est entre amis, c'est-à-dire, on sait bien que c'est pas, enfin, on peut pas dire comme ça, arriver, puis je crois que l'âme, c'est la musique, personne n'y a jamais pensé, c'est-à-dire, on peut le dire, mais à condition, peut-être, enfin bref, je dis ça très mal, mais je cherchais en même temps, c'est pourquoi je voulais essayer de faire quelque chose où c'est un peu, on est un peu le sourire, éventuellement, dans un cas idéal, c'est-à-dire, chose où le rapport à la théorie lui-même n'est pas le même, c'est-à-dire, essayer de changer le type de pratique de la théorie aussi. Et peut-être pas seulement parler sur théorie et pratique, mais aussi pratiquer autrement, du coup, tant qu'on y est.
Oui, alors, je profite du mouvement rotatif du micro pour donner la parole à Hélène, pour dire au passage, attraper au passage, en disant, à condition que cette légèreté, cette absence de gravité que tu dis, moi, je suis à fond d'accord là-dessus, sans parler du sourire, ne soit pas une gratuité. C'est-à-dire que, par exemple, puisqu'on apprend, puisque je crois qu'on est nombreux à lire, à essayer de fréquenter les textes scientifiques d'aujourd'hui, c'est qu'il y a cette même production fabulatrice, apparemment donnée, effrénée, mais quand même, l'enjeu c'est quand même le réel du réel.
Oui,
c'est-à-dire, c'est bien que ça soit le réel du réel. C'est-à-dire, c'est bien que dans la légèreté, dans la fiction, dans la fabulation, dans le truc, il soit question du réel du réel. Et je continue le mouvement de rotation. Passer la parole à Yann.
Tu as parlé de légèreté, je vais juste revenir. Grâce à une danseuse, une danseuse, quand il y a eu Valérie, l'âme, c'est plus la danse que la musique, mais la larme à l'extérieur du corps, pour moi, concrètement, c'est la danse. Mais c'est un cas très. Je vais juste te fournir un élément d'étude, c'est la notation des chorégraphies baroques. C'est un échange de parcours que tu. Un parcours en danse, c'est très précis, en particulier à l'époque baroque, où on a, je pense, à la notation de Feuillet, donc vous voyez ce que tu veux, parce qu'en plus c'est très beau, et on a le parcours du danseur, et en haut on a la ligne de partition, enfin on a le morceau de partition qui correspond au parcours. Donc on a sur la même feuille, en même temps, la notation musicale, le temps de la musique, et le parcours de la danse.
Ah, ça c'est.
Pour un philosophe, je pense ça quelque chose.
Et donc, il faut que tu mesures de la partition, et un second de ça.
C'est ça, c'est ça. Et le contraste d'ailleurs entre les deux musiques, les figurées en haut, et l'infinie longueur, ça c'est très beau, ça grave des dessins, des papillons, et vraiment, c'est les deux danseurs symétriquement. Et ça s'appelle le parcours.
Ah oui, en plus. Ah oui, est-ce que si par exemple je faisais un schéma caricatural, prendre ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait dire Et c'est vraiment comme, genre, c'est je ne sais pas ce qui parle en moi. Ce serait de dire, est-ce qu'au fond la danse, c'est pas le retour de l'âme sur le corps, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire, parce que tu disais la partition, bon, je comprends, tu me dis l'âme, c'est la danse, évidemment le texte de Valéry, mais en fait, je ne suis pas sûr de comprendre ce texte, mais j'écoutais, est-ce qu'au fond, parce qu'évidemment là, il y a un nœud absolument terrible que je suis incapable de démêler, qui est vraiment compliqué, comment est-ce que la danse, ça s'intégrerait dans ce que j'essaye de présenter, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle s'y intègre, mais justement par le corps, pour le coup c'est, je veux dire par là.
Est-ce que vous disiez tout à l'heure incorporel, immatériel?
Oui.
Moi, incorporel, non. Précisément, dans la danse, ça serait une âme à l'extérieur du corps, mais corporel quand même.
Est-ce que tu peux me permettre de dire que faire un petit geste d'hommage aussi, comme ça? Pour dire que je me souviens, là pour le coup il y a 13 ou 14 ans, mais je suis sûr que tu le signales par ailleurs dans ton appareil et dans tes notes, une des premières choses qui t'avait fait bondir, je crois, sur la question de l'espace parcouru.
Ah oui, c'est Alféri.
C'était une conférence donnée à Strasbourg par Pierre Alféri, le poète et par ailleurs philosophe, que je cite ici, parce qu'au fond, une des impulsions qui t'a fait. Et qui marque 15 ans après son effet, développé, considérablement développé, c'était cette. Je ne me rappelle plus sur quoi, d'ailleurs, c'était sur quel était l'objet initial, mais je me rappelle, tu avais vu le.
Et c'était pas en lien avec son livre Chercher une phrase?
Je ne crois pas que c'était en lien immédiat, mais okay. c'était une conférence, je ne sais plus sur quoi.
Oui, absolument.
Oui, François Picard. Ethnomusicologue spécialiste de la Chine, je précise entre autres. Hein. Entre autres.
Je pars.
Donc, d'abord, un témoignage, c'est des choses, c'est des termes d'espace musical qui sont encore une fois extraordinairement actuels pour des raisons institutionnelles, professionnelles, bien sûr. Avec d'autres, l'inventaire de ce qui s'est passé comme thèse cette année, c'est la thématique la première, au moins en tant que titre. Quoi. Après, bon, il y a la gauche et la droite, donc l'espace, il faut dire qu'il y a 150 pages, mais il ne faut mieux pas être quelque part, c'est une forme de thème. Allez, mais je vais vous parler dedans. Donc, Rabat, c'est une question qui avait déjà été abordée, ici même Mathis Olmos, Jean-Marc Chouvel, en 1997, l'espace de musique, à ce propos, forcément, je relisais Boulez disant Coltré, que je vais y remettre encore, hein. J'ai arrêté hier soir, je m'avance aujourd'hui, parce que c'est, à travers le pays fertile, c'est extraordinaire, et il y a des dessins de clés sur la ligne et les parcours, c'est une fécondité extraordinaire, en tout cas, pour penser, peut-être, mais en tout cas pour décrire, comme on ne l'a pas en moi, par exemple en musique, est-ce que c'est une voix en musique, est-ce que c'est deux voix matérielles qui font une même voix, donc ils suivent le même parcours, ben, ça va le même chemin, même si c'est pas un chemin, mais c'est un parcours, on peut faire un parcours dans des airs sans qu'il y ait de chemin, et sur la mer, comme vous avez dit. Donc tout ça, c'est des notions formidables. Par ailleurs, c'est pas une critique, c'est quelque chose qui passe pas. Donc, je préfère le dire, et puis je sais pas si c'est un moment pour parler de ça. Vous avez très bien à amener, comme d'autres choses, du bois, ça j'ai pas de problème avec lui, c'est mieux, c'est pratique. Je veux dire, sûr,
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui va m'empêcher de lever complètement votre doute, c'est vraiment mon incompétence, mais pas du tout mon désir. Je veux dire, par là, vous avez tout à fait raison. Si, effectivement, on entend... c'est vrai que Malcolm X n'était pas très adroit en ce sens-là. L'idée que de l'espace musical, c'est évidemment, par exemple, si je pense au livre de Gilroy, que j'ai un peu utilisé, etc., c'est vraiment l'idée que, précisément, la musique afro-américaine, dans ses développements, etc., c'est absolument pas une terre essentielle. C'est-à-dire, c'est au contraire un outil que lui utilise pour défendre ce que lui essaye de construire comme étant une identité non essentialiste, évolutive, en partie imaginaire, je parle de Gilroy. Il utilise la musique, et notamment le blues, le jazz, pour construire une identité de cet ordre-là, et pas du tout, mais exactement l'inverse, d'une identité essentialiste dont vous parlez. Et donc, si on avait parlé un peu des implications politiques de ce que j'ai essayé de raconter, il est évident que c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je vais pas du tout aller du côté d'une terre essentialiste, pas du tout. Je crois qu'au contraire, l'histoire de la musique permet au contraire de penser, je crois qu'elle permet exactement, c'est-à-dire si on voit les imbrications, le rôle que jouent les Caraïbes, etc., elle permet au contraire de penser à un espace qui n'est absolument pas une clôture identitaire, que vous dénoncez, avec laquelle je suis totalement d'accord.
Mais est-ce que
vérité, hein, mais peu importe, c'est que vous construisez un parcours où on peut arriver à théoriser, penser, la musique d'espace est là, mais que donc ils sont quelque part quand même corporels, fluides, dotés de beaucoup de qualités bénéfiques et enviables, et donc qui ne sont pas celles de la dureté, de la causalité, de la flèche, de la raison qui impose son effet sur celui-ci subit. Donc tout ça est enviable, mais en même temps, ce n'est pas dénué et ce n'est pas angélique. Et ce que vous construisez, c'est peut-être pour ça qu'au cœur, il y a cette petite, ce petit caillou noir qui va faire très mal au pied si on continue à marcher, qui est que ceci, cette musique-là, forcément, il y avait Nietzsche et donc il y avait Wagner. Il y a des choses quand même qui ne passent pas, même dans la musique. Mmh. Et dans l'âme, mais quand moi j'entends l'âme, c'est pas l'ange. L'ange, il est à nos côtés, hein, il marche à nos côtés. Et ce que vous tentez de décrire, c'est pas l'ange. C'est quelque chose qui est humain. Mmh. Cette âme-là dont vous parlez, elle est aussi, elle est tout ça, elle est humain, mais elle n'est pas angélique, elle a aussi.
Ça part noir.
C'est l'idée de se refaire, de rejeter, de travailler des choses qui sont négatives et alors on les travaille aussi dans les fonds du bateau, on les reprend.
Non, ce que je voulais dire, par exemple, je prends juste un exemple, je ne vais pas vous tenir trop longtemps non plus, mais si par exemple je fais une caricature là qui va faire bondir au moins un dans la salle, mais si par exemple je dis le protestantisme, l'âme du protestantisme luthérien, c'est Bach. Donc, je fais cette proposition pour. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que l'histoire de cette âme, c'est l'histoire de la musique de Bach, c'est-à-dire avec les luttes idéologiques qu'il y a dedans, c'est-à-dire avec le fait qu'on tente de le récupérer au XXe siècle par les nazis, c'est-à-dire avec tout, avec le fait que ce soit pris par des jazzmen, c'est ça que je voulais. Donc, ce que j'entends, c'est j'imaginais comme ça que la pérennité de l'âme après le corps, et donc la société, incorporer l'ensemble des pratiques qui ont produit cette musique, des pratiques protestantes luthériennes qui ont produit cette musique et qui, elles, on pourrait dire, ont disparu, ont laissé derrière elles une âme, et que cette âme n'est pas un corps glorieux, justement. C'est ça, donc pour aller dans votre sens, c'est-à-dire justement, c'est pas un corps glorieux qui va venir à la fin des temps, qui n'a aucune histoire, etc. C'est une âme qui a une histoire, avec ses luttes internes, ses parts, etc., ses déchirures et tout ça.
Bon, par loyauté à l'égard de notre convention, je vais, si vous voulez bien, interrompre cet échange qui ne voudrait pas être interrompu. Vous rappelez, mais c'est un peu un petit rite, et comme il y a à toutes nos conférences des gens qui n'étaient pas forcément aux précédentes, je rappelle qu'une des raisons du choix de notre horaire, c'est pour ouvrir à qui le veut la possibilité que nous dînions ensemble, ce que nous faisons en général à un petit bistrot qui se trouve à côté. Grec bien connu dans les parages. Donc, et il n'y a pas de. C'est table ouverte, hein, nous sommes. Tous ceux qui veulent être des nôtres sont les bienvenus. Et puis, remercier Thomas de son parcours transatlantique pour aller et retour, pour nous rejoindre. Vous dire que le livre de Thomas sur Bach doit paraître aux éditions Vrin d'ici peu, semble-t-il, dans la collection d'esthétique que dirige. Jacqueline Nischenschein, grâce à elle, et vous donner rendez-vous, si vous le voulez bien, pour la 6e conférence dans un mois, le 13 mars, ici même, et à la même heure. Merci beaucoup, Thomas.
Merci à vous.
Les enregistrements en partie, et j'entendais parfois les questions, pas toujours, mais des fois on les entend, donc vaut mieux tout garder.
Oui, ça. Je suis en hold, c'est pour ça.
Donc, t'as pas arrêté en fait. Non, il est rouge toujours.
Parce qu'il est old.
Ah oui, c'est ça.